c'est Marceau. Marceau le midi.
11h31, c'est plein soleil sur Québec. Quelle belle journée on a. C'est sûr et certain que si vous travaillez à l'extérieur, ça doit être un peu plus froid. On nous parlait d'une température ressentie tantôt de moins 18. C'est encore le cas. L'aéroport international Jean Lesage, on nous dit que c'est un moins 9 actuellement sur Québec. Donc ensoleillé tout au long de la journée. Ce soir, accumulation de neige entre 2 et 4 cm annoncée. Minimum de moins 14. Demain, samedi, il devrait y avoir de la poudrerie. On parle d'un 5 cm annoncé avec des rafales entre 60 et 80 km/h. En soirée, de la neige avec un minimum de moins 18. Donc, si vous êtes sur la route demain, si vous êtes en train de vous promener sur les routes du Québec en tournoi de hockey, ça se peut que ce soit au ralenti sur les autoroutes. Moi, je vais du côté de Montmagny demain. Salut, Pascal.
Salut, Yannick.
Je vais du côté de Montmagny demain. Puis le tronçon entre Lévis puis Montmagny, là, quand il y a de la poudrerie puis il y a des petites tempêtes de neige.
Un petit vortex.
Tout le temps, le tronçon où t'en prends plus que tu voudrais en prendre, mais c'est pas grave, tout va revenir à la normale dimanche. All right, vous avez des choses à nous dire, vous êtes dans Marceau le midi, ben, c'est le 418-971-1021 par texto. Pascal CV est là, est avec nous autres jusqu'à 14h, il a de l'air dangereusement en forme.
Véro Bergeron a vécu tout un moment avec Max Larouche et moi, mais Max Larouche, on a une passion parole de toune.
Oui!
Notre passion, c'est pas envers, mettons, Daniel Bélanger. On l'adore, on trouve qu'il y a excellente chanson, une prose incroyable. Mais celle qui nous fait virer dans un délire incontestable, ouais, c'est peut-être des artistes comme, je dirais, Céd Auger.
Céd Auger. Mm-hmm. Je connais pas Céd Auger.
Ouais. Puis il y a aussi la toune Vivant de Miguel Michel et Céd Auger.
C'est qu'ils ont des paroles particulières.
Ouais. À 1 minute 20, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont à offrir.
Nous autres, on avait Normand L'Amour.
Oui!
T'es pas pire. Salut, Jeff.
Oui, Normand L'Amour, certain.
Je peux-tu te faire entendre, maintenant?
Céd Auger, ben oui, vas-y.
Okay, alors, le segment de Vivant.
C'est quoi, faut qu'on retienne, là? C'est les paroles?
Exact.
OK. Vas-y. J'aime ça, ouais. Jeff.
On dirait l'Éric Lapointe des années 2020.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas si on
non, peut. C'est vrai. Écoute le grain de voix, là.
Mais Éric Lapointe, il y avait quelqu'un d'hyper talentueux qui écrivait ses chansons.
Ouais,
oui.
Visiblement, ça semble pas être le cas de Cédric, là.
Visiblement.
Non, le temps d'une ride, le temps d'une bleue de ride.
Il y avait Éric Lapointe quand il avait sorti, c'est-tu l'album Brume de ta bouche?
Ah, ça c'était bon quand il était sur la plage puis il roulait
dans son... Il était sur son voilier avec son linge tout blanc. Il avait de l'air mort, mais son linge était propre.
Oui, c'est ça.
Tout était parfait. Il y a aussi... T'es-tu capable de me résumer ce que Guy Carbonneau est en train de dire actuellement? Je te fais entendre ça à l'instant, Pascal.
Tu peux devenir un leader, mais faut que tu une petite graine dans quelque part à un moment donné.
OK, une graine de champion. Ouais. Et leadership, c'est ça qu'il veut dire?
Comment devenir un leader? Qu'est-ce que ça prend pour devenir un leader? Guy Carbonneau l'a trouvé.
Tu peux devenir un leader, mais faut que tu fasses une petite graine dans quelque part à un moment donné.
Exact, c'est ça.
Il parlait de McLean Celebrini.
Ouais. C'est lui qui fait les paroles.
Tu vas devenir peut-être un leader, il faut que tu aies une petite graine.
Oui, exactement.
À quelque part, un jour.
Quelque part.
Fait que si je trouve que Celebrini est un bon leader, il est dans le trouble.
Fait que c'est ça, le vendredi commence fort. Moi, des paroliers. Yannick, tu sais ça, quelqu'un chante ça, là.
Ouais.
Ça va être dur de pas tomber en amour, là.
C'est clair.
Ça vient me chercher des entrailles.
Ben oui, avis à tout le monde. Si vous voulez envoyer des poèmes à Pascal, 418-971-101.
Faut qu'il y ait bleu de rail dedans, vous êtes correct.
Tu te souviens-tu des bières, Jeff, qu'on prenait au DEP dans le secteur de Saint-Sauveur?
Mais
hein. C'était-tu le Sprint, ce dépanneur-là? C'était quoi, donc?
Moi, c'était au Sonerco.
Sonerco!
Oui, au Sonerco.
Puis on allait chercher des bières-là. On n'était pas très vieux, mais on s'organisait tout le temps avec quelqu'un qui avait une moustache molle pour aller sortir la bière. Puis il y avait des Bull Max.
Ben oui!
Il y avait des Colt 45.
Oui, aussi.
Les filles nous faisaient sortir des bières limonades.
Ouais, c'était la Tornade.
Tornade, mais boum, c'est pas Boomerang.
Ah, Boomerang aussi, ouais.
Aussi.
Les filles se saoulaient avec une bière puis vomissaient leur vie.
Il y avait la bootlegger d'Indépendance quand on était jeunes. C'est une petite bouteille de verre qui était tout le temps dans le panneau. Oh, Audrey a connu ça. Dans le panneau, mettons que tu ouvres un frigidaire.
Ouais.
Là, c'était dans vitre. Puis il y en avait quelques-uns, genre melon d'eau, pomme verte. Ça, c'était comme 30 % d'alcool dans une fiole grosse de même qui goûtait le jujube, là. Ça a été la Four Loko de ma génération. Ouais.
Nous autres, on n'avait pas de Four Loko.
Non.
C'est, ça a été plus tard où on a découvert là, que Red Bull, vodka, puis jus de canneberge, ça avait un petit effet particulier.
Ah oui, oui, oui.
T'étais allumé comme un rond de poil, mais t'étais sous mort.
Tu te recrinquais pour la soirée, mais à un moment donné, quand tu tombais de haut.
Là, à un moment donné, tu tombais, là, tu te réveillais à l'hôpital. Le médecin te disait, qu'est-ce que t'as bu? Le Red Bull, vodka.
Ma dignité.
Ouais. Bon, ben, t'es le 32e ce soir.
C'est ça.
Dégage.
T'en as bu combien? Ah, oh, juste 10 Red Bull, y a rien là.
Y a quelqu'un qui me dit la Twist. C'est vrai que
oui,
la,
c'est
twist
vrai, la Twist
se vendait au dépanneur. C'était rempli de sucre,
cette
bière-là, entre guillemets. Ouais. Puis les filles raffolaient de ça. Mais nous autres, c'était plus
la grosse Bull Max.
Grosse bière.
Ben oui, la grosse Bull Max.
Puis, de mémoire, il y en avait une qui avait un plus fort pourcentage? C'était un 7,5% d'alcool.
C'était la Bull Max.
C'était la Bull Max.
Ah
hein?
Oui, c'était la Bull Max parce que nous autres, moi et ma gang de chum, on se lançait sur la Bull Max à cause de ça. Un effet plus virulent.
Mais il y avait la... C'était-tu la Bud qui était 10% aussi? C'était vendu une grosse méga bouteille. Le goulot était super.
Ah ouais, ça devait être...
gros.
Ça devait être la Labatt Bleu de Rail, ça.
Mais
la
Labatt Bleu de Rail,
toujours été forte en alcool.
5$, ouais. 10%. C'est pas drôle, on parle de brosse.
Ouais, la Labatt Bleu de Rail a toujours été très forte en alcool.
Mais chum, il allait tout le temps voler un vignier. Là. C'était tout le temps au même dépanneur. Tu te souviens-tu de ça, les vignies?
Oui, oui, mais ça existe encore. Faut faire attention.
Ça existe encore?
Oui.
Ben non, je veux dire, il allait voler ça. Là,
il volait. Ah, oh, c'est pas correct.
C'était pas un grand cru. Il avait 13 ans. Puis,
13 ans?
Il amenait ça au parc du Rocher.
À 13 ans?
Oui, oui. Puis là, tout le monde ouvrait la valve et se mettait la bouche en dessous. Puis on était 18 ou 20 sur le vignier. On était tous sous à faire la soirée.
À 13 ans.
Parc du Rocher.
Ah, occupez vos enfants, gang. Vous venez d'avoir un exemple qu'il faut les amener.
Non, mais aujourd'hui, un enfant ne fait pas ça.
Non.
Non. Nous autres, on était... notre génération, nous autres, on était faites différents.
Ouais. Il y avait un petit peu trop de temps. Hey, ça existerait encore, les Johnny Bootlegger. Ben, il y a un éditeur qui vient de me l'envoyer, puis ils ont plein de sortes.
C'est pas qu'on avait tant trop de temps. C'est juste que, écoute, on était toujours en gang de chums dehors.
C'est ça.
Ben, t'es
on n'avait pas d'écran, on n'avait pas rien. Fait que c'était dehors avec ta gang de chums, puis let's go.
Le vin, l'oiseau bleu qui était au dépanneur.
Oui! L'arfand des neiges.
La bouteille
aussi.
Blanche. Là.
Oui, l'arfand des neiges aussi.
C'était incroyable. Oh, là, là. C'était le bon temps.
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Quand on avait fêté les 30 ans d'un de mes chums à Montréal, on était allé voir Canadien contre Washington, Alex Ovechkin. On est allé manger dans un restaurant, apporter votre vin. Puis il y a deux de nos chums, comme dans le bon vieux temps, ils ont amené un vignier. On avait rien.
Puis Roquet Belzarel l'avait repris, hein, ça, l'histoire de... Pas un pilier, un vignier! Parce que les gens amenaient des piliers. C'était très, très drôle. Yes. La Black Label, il y avait une Black Label à 10%.
C'est vrai.
Ah, c'est peut-être ça, donc c'était tellement
dégueulasse. Il y avait de la Carling aussi. La Carling était haute en alcool.
Il y a un auditeur qui me dit la 3X, mais c'était-tu la Molson 3X?
Oui, il y a eu la Molson 3X, mais il me semble la 3X aussi a comme déjà existé. Je suis plus certain là, de ça.
Merci
mais,
à l'auditeur qui ramène les rêves aussi. Là. Ça,
oui,
à Québec, il y en avait
oui.
moins. Au Saguenay, il y en avait. Là, il y en avait dans peut-être le nord du Québec. Je sais pas, mais c'était une genre de bouteille en plastique, transparente. Le liquide était bleu. Tu écris rêve en noir dessus.
Oui, je me suis.
Ça goûtait les popsicles.
T'as-tu déjà eu un recours, Pascal? T'as-tu déjà eu recours à un adulte pour acheter ton alcool?
Non.
Oui? OK.
Oui.
Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui?
Hey, y a tellement
comme ça se faisait dans le temps, parce que les enfants, ça se peut qu'ils t'en demandent.
Il y a tellement de sensibilisation, ça, je ne sais pas. Moi, c'est
Est-ce
clair, ça se faisait. Mais remarque que moi, le dépanneur au coin de chez nous, qui n'était pas le Sonorco, à 14 ans, quand on rentrait avec nos sacs à dos, le propriétaire, il n'y avait aucun problème à ce qu'on prenne notre bière, on mettait ça dans le sac à dos, on sortait du dépanneur.
Oui, nous aussi, il y avait un dépanneur.
Lui, c'était
il
nous avait vendu, puis la vie était belle. Là.
Ah, ouais.
Nous, on avait un dépanneur à Bois-Châtel, que c'était des travailleurs étrangers qui avaient acheté. Puis
Les autres, ils n'avaient aucune idée de la loi.
Eux autres, ils ne demandaient pas à carte. À un moment donné, ils ont commencé. Là,
parce que moi, je vais probablement le faire pour mes enfants.
Ben, moi, je le fais pour mes enfants, acheter de l'alcool.
Il va falloir que ça se fasse chez nous. Mmh. Puis après ça va être dosé. Puis je vais essayer d'être aux alentours. T'sais.
Ah, bien sûr.
Mais je ne le ferai pas pour je le ferai pas pour les enfants des autres.
Moi non plus.
Mais si tu en sors à ton fils, mettons, à un moment donné,
ouais.
puis tu sors une 6 ou une 12.
Je vais le faire si c'est pour chez nous.
Puis, mais il va en offrir à ses amis. Fait que,
S'il dorme chez nous, c'est correct.
OK. Mais mettons qu'un ami de ton fils te demande de sortir une caisse, tu le feras pas.
Non. Vas-y, demande à ton père.
OK. Ouais. Il y a toujours des parents qui faisaient là, pour d'autres parents qui le faisaient pas. Là.
Ouais, je sais. Ouais. Moi, je suis plate. Je n'achèterais pas de la bière pour les autres enfants.
Ah, moi non plus.
Mais pour les miens, s'ils veulent consommer chez nous puis que je puisse les assister là, vers 16-17 ans, ben ça va être correct. Mais
les assister, ça va être quoi? Être en haut à
l'étage? J'arrive au dépanneur, comme nous autres, ça nous arrivait. J'arrive au dépanneur, puis il y a des jeunes de 12 ans, 13 ans qui me demandent de sortir de la bière. Nous autres, il y avait des adultes qui faisaient ça, qu'on connaissait pas, qui faisaient ça pour nous autres. Là. Mais moi, je le ferais pas aujourd'hui pour des enfants. Sont pas assez matures.
Puis dans le party que tu vas assister pour tes enfants,
oui.
Vas-tu être dans le party ou tu vas être, mettons, au deuxième étage?
Je vais être au deuxième étage dans ma chambre en bobette.
Oui, parce qu'il faut que tu les laisses vivre leur vie, là. Les petits frères de sous-sol puis tout. Là.
Non, faut que tu laisses vivre ça.
Mais pourquoi on est rendu de même? Hein? Bons ados. Les adultes étaient plus cool avant ou je sais pas?
Oh non, c'est juste que, tu sais, moi je pense que c'est tout simplement que comme parents, à un moment donné, on veut tellement que tout aille bien pour nos enfants qu'on développe cette espèce de peur-là qui leur arrive à rien.
Parce que t'achètes de la bière pour les jeunes, puis les jeunes ils repartent de chez vous, puis ils se font fesser par un char. Là. C'est toi qui as de l'air du
grand
exactement.
Grands épais, en plein ça. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on soit comme ça.
OK. Oh, ouais. Merci de me rassurer. Victoire in extremis hier, 4-3 en prolongation Canadien face aux Sharks de San Jose, aux faibles Sharks de San Jose. Puis ça n'a pas été facile pour le Canadien hier qui ne s'attendait pas à ce genre de match-là. Samuel Montembeault, dans les premiers tirs, je pense qu'il a accordé 2 buts en 7 ou 8 tirs.
En 6 lancés.
En 6 lancés. Ce n'était pas la plus belle performance de Samuel Montembeault, mais au moins il s'est repris. Puis à la fin, si vous étiez là, vous avez probablement vu un des plus beaux buts de l'année d'un joueur du Canadien de Montréal.
Clairement, quel but de Cole Caulfield en prolongation. Puis c'est Caulfield et Suzuki qui ont pris le match en main. Nick Suzuki, 2 buts, 1 passe. Caulfield, 1 but, 2 passes. Alors, les deux, ça va bien pour le Canadien. T'es 3 victoires depuis la pause de la Coupe des Quatre Nations. Le Canadien avait eu beaucoup de difficultés avant la Coupe des Quatre Nations. Je pense que le repas fait du bien à cette jeune équipe-là.
Ouais. Tu sais, la feinte que Caulfield a faite, on l'a tout essayé dans les ligues de garage.
Oui.
Okay? Moi, ça, je l'ai tout le temps essayé, ça n'a jamais fonctionné. Puis je joue contre des gars de ligue de garage. Lui, il l'a fait, mais contre des gars de la Ligue nationale. Puis en plus, il a réussi à déjouer le gardien de but l'autre bord. C'était juste exceptionnel.
Ah, c'est ce qui est impressionnant.
Ça va passer dans les highlights, mais de l'année, je pense. Là.
Clairement, c'est un des plus beaux buts dans la Ligue nationale cette année. Ouais. Le format de 3 contre 3 en prolongation permet justement de voir des pièces de jeu comme ça. Donc, c'est très intéressant. Puis là, le Canadien se retrouve à 61 points. Seulement 1 point des Bruins, des Sénateurs et des Rangers avec 2 matchs contre les Sabres qui s'en viennent samedi et lundi. Peut-être que lundi soir, mardi matin, on va se réveiller et on va dire « Hein? » Canadien est rendu 9e dans l'Est.
Qu'est-ce que tu as pensé de McLean Celebrini?
J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Je trouve que c'est un gars qui se développe de façon très complète. Il est bon sur toute la patinoire, sur 200 pieds, justement. Ce matin, je disais, ça me faisait penser à Pavel Datsyuk à l'époque avec Détroit parce qu'il a cette capacité-là à voler les rondelles. À l'âge qu'il a, ça me fait beaucoup penser à un Simon Gagné. Quand il a commencé dans la Ligue nationale, on disait ça de Simon Gagné. C'est un gars qui est bon sur 200 pieds. Un Patrice Bergeron. Je trouve vraiment que c'est un joueur complet. Mais avec des habiletés offensives, une touche offensive hors de l'ordinaire, alors ça va être tout qu'un joueur dans la Ligue nationale.
Ouais. Est-ce que c'est le genre de gars qui va avoir une carrière comme Sidney Crosby a connu?
Peut-être pas comme Crosby. Je ne sais pas s'il va pas avoir un impact aussi important offensivement, mais c'est un gars qui va avoir une superbe carrière dans la Ligue nationale. Tu sais, hier, je te le disais, Max Larouche le dit aussi hier soir dans Gravel, dans le retour. Je t'avais demandé s'il n'est pas meilleur que Connor Bedard. En tout cas, il est plus complet, c'est sûr. Est-ce qu'offensivement, il va être même meilleur que Connor Bedard? C'est une bonne question parce que les mains bougent vite, la vision du jeu est là, protection de rondelle est très bonne. Franchement, là, pour un jeune de 18 ans, moi, ce que j'ai vu hier, là, ça m'a impressionné.
Ben, c'est l'âge, hein? 18 ans,
ben,
il joue contre des hommes. 25, 30 ans, puis ben, il est capable de tirer son épingle du jeu. Puis Lane Hutson, je veux dire... Il est de la même trempe que McLean Celebrini, sauf qu'il est à la défense.
C'est ça, Lane Hutson, c'est une bibitte spéciale, je vais le dire comme ça. C'est un joueur comme on n'en voit pas présentement dans la Ligue nationale, la façon qu'il bouge avec la rondelle comme défenseur, de la façon qu'il est capable de prendre déjà beaucoup de minutes à son jeune âge. Hutson va être là, un défenseur élite dans la Ligue nationale, là, tout le moins offensivement, c'est clair.
Es-tu capable de me dire la liste des défenseurs? On va le laisser avec les auditeurs, voir si c'est des connaisseurs. Ouais. 418-971-1021, 418-971-1021. La liste des défenseurs qui ont inscrit au moins 40 passes en moins de 60 matchs à leur saison recrue depuis, tiens, on va reculer jusque 1991-1992. Es-tu capable de m'établir cette liste-là, Pascal?
Oui, oui, oui.
Il y aurait combien de joueurs, selon toi, qui auraient été des défenseurs qui ont réussi 40 passes en moins de 60 matchs?
5.
5 joueurs. Mm-hmm. C'est-tu beaucoup, ça, 5?
Mm-hmm.
OK. Moi, si je ne l'avais pas vu, j'aurais dit peut-être une dizaine.
Ah, vois-tu, moi, j'irais plus à 3-4 parce que 40 passes, c'est du stock en grime.
Oui, mais quand même, on a eu des joueurs assez incroyables.
J'ai pensé à Carl Makar. J'ai pensé à Eric Karlsson.
Oui.
Christopher Letang.
Chris Chelios a arrêté
de jouer quand?
Oui, mais là, tu as parlé de défenseurs recrues.
Puis on parle de 91, 92. Ouais. Ah, t'as raison. Fait qu'on ne le mettrait pas.
Je ne peux pas mettre Paul Coffey à cause de ça, ni Denis Potvin, t'es les vieux de la vieille en 1980.
Brian Leach,
c'était pas dans. Et lui, c'était pas recru, ça, c'était écœurant. Il a fait quoi, Brian Leach? Je vais de mémoire, une saison, je pense, de 112 ou 113 points à défense.
Ouais. Il y en a deux joueurs depuis 1991-92. Okay. Le premier, ce serait lequel, selon toi?
Ben, je vais prendre Eric Karlsson.
Il n'est pas dedans.
Non!
C'est Niklas Lidström.
Ah, ben oui. Mais Lidström, en fin de carrière, était moins offensif. C'est pour ça que j'ai pas pensé à lui.
Hey, t'as raison. Il a effectivement axé un peu plus sur la défensive en fin de carrière. Donc, il y a deux joueurs. C'est Niklas Lidström, puis il y a Lane Hudson. C'est ça, la liste.
OK.
Il n'y a pas d'autres défenseurs qui ont réussi l'exploit de 40 passes en 60 matchs.
Ça veut dire qu'il a mis son nom à côté de celui de Niklas Lidström. C'est impressionnant.
C'est complètement fou.
Ah, c'est fou, c'est fou. T'es profitez-en à Montréal, honnêtement. T'es Hudson est particulier. Je suis vraiment satisfait de la saison de Cole Caulfield à l'heure actuelle. Nick Suzuki se développe très bien. Il y a de quoi avoir du fun à aller au Centre Bell.
Et sur tous les auditeurs qui nous ont écrit, il y en a deux qui l'ont trouvé. Fait que je les salue. Là.
Vous êtes vraiment fort.
Il y a Jennifer qui a dit, Pascal, dis juste Lidström.
Lidström. C'est ça.
Des gens qui essaient de t'aider.
Ben oui.
Sérieusement, à chaque fois qu'on parle de hockey, vous êtes dans votre conversation, vas-y, ils vont peut-être essayer de pogner Pascal, elle m'écrit, elle est trop fine, trop fine.
Mais bref. Yes. OK, le Canadien qui joue en fin de semaine, il joue tout samedi?
Samedi, Sabres de Buffalo, et ils sont à Buffalo, et lundi, ils vont recevoir les Sabres, alors c'est le doublé pour le Canadien. Peut-être qu'on va redonner un départ là, à Jacob Dobesch là, dans un de ces deux matchs-là, ça serait pas possible.
C'est quoi vos prédictions?
Deux victoires pour le Canadien.
Bon, okay. On va séparer souvent des matchs comme ça, rapprochés entre deux équipes, ça sépare. Fait que je vais dire que chaque équipe va gagner à domicile, alors le Canadien, malheureusement, va perdre par un but samedi.
Ouais, et ce soir, il y a 5 matchs. Les Leafs jouent contre les Rangers, les Kings jouent contre les Stars, le Wild joue contre l'Avalanche, puis demain, il y a 13 matchs.
Ouais, les samedis soirs sont toujours très achalandés, même que demain, ça commence en après-midi, là, midi.
Ça commence à midi 30.
Ouais, midi exact. Et demi, surveillez, là, il y a un bon match. Tampa Bay Capitals de Washington à midi 30, je ne me trompe pas. Lightning a 6 victoires en ligne.
Les remparts, ce soir, c'est contre Shawinigan.
Oui, en plein ça.
Et Gatineau dimanche.
C'est ça, les remparts ont besoin d'un petit talent positif là, avant le début des séries.
Jeff Fortin, bon training.
Merci.
T'en vas faire quoi? T'en vas faire des marches?
Non, je m'en vais au gym et c'est haltérophilie le vendredi, c'est le fun.
C'est haltérophilie.
Hey, on fait des squats en déchaîné, les jambes vont être mortes.
Les squats, la journée où on en fait, c'est le fun.
Ouais.
C'est le lendemain.
Ah, demain, je vais avoir de la misère à descendre les escaliers. Je vais faire...
Exact.
Salut, puis, l'ami.
Merci, bon Jeff. Weekend. Sinon, dans l'actualité, Pascal, bon, c'est vendredi, là, c'est assez relax dans l'actualité. Hey. As-tu des choses qui t'ont marqué?
Moi, je dirais même pas que c'est relax.
Non,
non, je trouve que c'est une grosse semaine. Entre autres, bon, Gilles Bélanger succède officiellement à Éric Kerr, qui, vous savez, a quitté son poste hier. La photo que la CAQ a prise pour le remercier de ses services... Je sais pas si c'était comme un genre de bon débarras ou c'était merci pour tes services.
Mais c'est beaucoup de complaisance là, dans le départ d'Éric Kerr. Merci Éric Kerr pour tout ce que tu as fait pour nous.
Je pense qu'il pouvait se le dire à l'interne versus le faire publiquement.
Au nombre de fois où il a menti, la CAQ aurait peut-être pu se garder une petite gêne là, puis juste rien dire.
Donc Gilles Bélanger va succéder à Éric Kerr. Ça, c'est suite aux répercussions du fiasco SAQ Click. On savait que là, ça pouvait pas continuer comme ça. C'est le député de Hartford, Gilles Bélanger, qui sera nommé ministre de la cybersécurité et du numérique. C'est 24 heures plus tard. Recours collectif contre le diocèse de Québec. Là, le séminaire de Québec qui est maintenant visé. C'est la Cour supérieure qui a accepté l'ajout du séminaire de Québec puis du petit séminaire dans tous les établissements qui sont visés par l'action collective pour abus sexuels. C'est un dossier, vous savez, qui s'échelonne depuis plusieurs mois là, et qui, à ce jour, note 167 victimes qui ont dénoncé des agressions qui auraient été commises par des prêtres ou des laïcs du diocèse. Donc, ça s'alourdit avec l'ajout du séminaire de Québec. Là, il faut savoir que c'est une récente décision de la Cour supérieure. Ça veut dire qu'on va avoir plus d'informations au courant des prochaines heures, voire les prochaines semaines. Les avocats des demandeurs y identifient notamment l'abbé Gilles Noreau. Ça, c'est un prêtre enseignant du petit séminaire comme agresseur. Il aurait agressé l'un des demandeurs qui a dénoncé les agissements de ce prêtre, l'enseignant au directeur du petit séminaire. L'abbé Jean Poulain l'aurait traité de menteur, puis a ainsi réduit au silence la dite personne qui réclame en fait un processus judiciaire dans ce cas-ci. Gilles Noreau a fait d'autres victimes, selon ce qu'on lit dans les journaux. Jusqu'à la fin des années de 1980 environ, là, et ça finissait même par plaider coupable à les accusations de crimes sexuels là, sur cet enfant en 2004, fait que c'est pas un nom qu'on ne connaissait pas. Ça a été déposé, cette action collective-là, en 2020, autorisée en 2022. On est encore là-dedans, on est dans des négociations entre parties, là, ça n'avait pas mené à un règlement à l'amiable jusqu'à maintenant. Donc, Yannick, on est là-dedans pour encore plusieurs mois, puis voir année.
Ouais, il y a Marc qui me dit quand tu t'appelles Éric Kerr, tu te replaces comment? Ben, jusqu'à maintenant, Éric Kerr, il a démissionné de son poste de ministre, mais il va rester député de sa circonscription. Parce
il y a beaucoup d'amis en politique en passant.
Puis il y a un danger actuellement là, pour ce qui est de cette circonscription-là, parce qu'Éric Duhaime est arrivé deuxième. La CAQ s'en va en élection dans quelques mois, puis la dernière des affaires qu'ils veulent, c'est de se faire encore rincer dans une circonscription. Fait qu'on a probablement demandé à Éric Kerr, regarde, avec ce qui se passe, on va te donner un break. Là. Tu lâches ta job de ministre, mais reste avec nous autres dans le comté, parce que si tu t'en vas, on va se ramasser encore plus d'un problème. Éric Kerr semble être un bon soldat pour la Coalition Avenir Québec. J'ai hâte de voir si à un moment donné, après sa carrière, il va dire exactement tout ce qui s'est passé, parce que je pense pas que c'était le seul qui était au courant du fameux 222 millions de dollars, là, des dépassements de coûts. Moi, je pense que François Legault était au courant. C'est une hypothèse. Il n'y a rien qui m'aiguille vers ça actuellement. J'ai pas de preuve à rien. Mais Éric Kerr est tellement le genre de... tu sais, le petit chien, le caniche qui se promène tout le temps, là, qui est tout le temps gentil, que tu flattes et tout ça. Je pense pas qu'il ait pris cette décision-là sans en parler à personne. Et probablement que François Legault le protège en raison du fait que Éric Kerr est détenteur d'un terrible secret. Où est-ce qu'il va se placer? Je sais pas. Moi, je souhaite pas de mal à Éric Kerr, honnêtement. Là, j'ai vu des choses qui se disaient hier sur Éric Kerr qui étaient un peu épouvantables. Non, non, pas moins que là,
on n'attaque pas plus faible que soi.
Il y en a qui, tu sais, il y a eu sa leçon. Visiblement, il avait atteint le principe de Peter. Là. Il n'était pas capable d'upgrader ses skills. Puis, il s'est fait mettre dehors parce qu'il a menti. Même s'il dit que lui, il n'a jamais nui puis il a tout fait ce qu'il avait à faire comme ministre. Je souhaite qu'il se replace pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, parce que ça ne doit pas être un super de beau moment. Mais je ne comprends pas les gens qui veulent comme le mettre sur le bûcher là, ou qui veulent s'en prendre à lui. Là. Ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas arriver dans notre société. Là.
Nouvelle date de grève. La CSN a annoncé que les travailleuses, les travailleurs des CPE, les 13 000 travailleurs, retournent en grève le 18 et le 19 mars prochain. Mettez ça à votre agenda. Il va falloir trouver un plan B. On a indiqué qu'on ne consultera pas les membres pour obtenir un autre mandat qui pourrait aller jusqu'à la grève générale illimitée, mais quand même, ces deux dates-là s'ajoutent. Donc, on va débrayer. On sera au 4e, 5e jour de grève pour tout ce qui est travailleurs en CPE, le 18, je répète, et le 19 mars prochain. Il faut quand même que je te parle d'un autre dossier qui est un peu particulier, puis je pense que tout le monde peut avoir peur de ça pour ses parents ou encore pour soi dans quelques années, mais il y a un ex-employé de banque qui a dépouillé un aîné en CHSLD de plus de 400 000 $. Là, il s'en va en prison. Il s'appelle Fadi Hamdan. Il a échoué dans sa tentative de faire renverser le verdict en appel. Ça, c'est un gars qui travaillait, comme je vous disais, dans une banque et il a réussi par divers stratagèmes de convaincre un vulnérable aîné de 89 ans de faire des virements de banque. Donc, c'est un fraudeur. C'était lié d'amitié avec sa victime et la victime n'avait pas de famille. Et il a confié la gestion des biens en signant une procuration, en plus de mettre sur son testament le fraudeur Fadi Adam de 57 ans. Donc, c'est une histoire quand même assez tragique. C'est épouvantable, mais on est quand même content de savoir que cette personne-là se retrouvera pour 30 mois d'incarcération derrière les barreaux, justement. Il y a des photos de lui qui ont essayé d'être prises, puis tu vois, là, il a même pas l'air de s'en faire. Je te dis, c'est un jugement de valeur que je suis en train de faire, là, mais les photos, les images qu'on a de ce fraudeur-là, Yannick, là, il a la face de béton, il est fâché, puis il fait comme un signe de « promo pas photo » à travers tout ça.
T'sais. Ouais, ce qui est weird, c'est que la relation était tellement intense entre lui puis la victime que la victime l'avait mis sur son héritage.
Oui.
Fait qu'il aurait probablement eu l'argent pareil s'il avait attendu au décès de l'homme de 93 ans, tu m'as dit?
89 ans.
89 ans. Donc, il aurait quand même eu cet argent-là. Puis,
ouais, mais je pense que là, il y a... je sais pas si...
Dans l'article, on nous dit qu'il pourra pas compter sur l'héritage de la victime, ouais, puisque peu avant son décès, la victime a changé son testament qui donnait tous ses biens restants à des organismes de bienfaisance.
Là, c'est ça que je souhaite questionner avec toi. Mettons que tu es conseiller financier et tu te retrouves sur le testament d'un de tes clients. Là.
Ça devrait pas se faire.
Non, je pense pas que ça doit être légal. J'ai vraiment l'impression que c'est impossible. C'est comme, mettons, toi, tu es une psychologue, là, puis là, tu fais ton événement de lutte, OK, pour la bouchée généreuse. Là. Mais je pense pas que la psychologue que tu consultes a le droit de te donner. La barrière professionnelle dans certains ordres, là, puis certains métiers, là, elle est énorme. Là.
Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du trouble avec la justice. 11h56, l'excellent Denis Gravel s'en vient. Les jokes de mon oncle, on va les faire à partir de 12h30. Il y aura encore une fois un 50$ à gagner aux fromageries Victoria. Ça vous tente de nous en envoyer pour qu'on les passe en ondes. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Nathan Meilleur, virtuel, est avec nous aujourd'hui puisqu'il est encore absent. Fait qu'il nous a réservé 5 blagues de son cru qu'on va vous faire entendre. Donc, si vous avez des jokes que vous voulez qu'on passe en ondes, ben si c'est vous qui gagnez, c'est 50$ à gagner aux fromageries Victoria. On fait une courte pause et on vient.
Marceau le midi. Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
1, 2, 1. Tout feu, tout flamme, telle est l'approche d'un Denis Gravel en entrant dans le studio. Je me dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec Denis? Il a de l'air revigoré. Est-ce que c'est le but de Cole Caulfield hier?
Eh mon Dieu, quelle manœuvre incroyable!
J'essaie de faire ça dans la Ligue des garages, ça marche jamais. Puis c'est contre des gars qui ont de la misère à patiner comme moi. Puis lui, il fait ça dans la Ligue nationale contre un joueur de hockey professionnel puis un gardien de but professionnel. C'était de toute beauté.
J'imagine que tu dois le savoir hein, quand tu scores un but qu'ils vont montrer à chaque fois qu'ils vont faire un montage de tes meilleurs moments. Puis celui-là, il tombe dans cette catégorie-là. Ouais. Quel but incroyable!
C'est pas aussi impressionnant que celui d'Alexander Ovechkin quand il a réussi à marquer quand il était sur le dos. Tu te souviens-tu de ce but-là? Il était juste accepté. Tu disais, mais voyons, il veut tellement la rondelle que même quand il est rendu sur le dos, il sait exactement où le net est. Là.
La feinte est tellement rapide de Cole Caulfield. Oui. C'est pas contre n'importe qui, là. C'est contre Salabrini qui est en liste pour être recrue de l'année, Ligue nationale de hockey. Une feinte qui est tellement rapide que faut que tu attendes le ralenti pour comprendre comment il a réussi à manœuvrer la rondelle de cette façon-là. Au début, je pensais qu'il avait fait... J'ai vu cette feinte-là une fois ou deux dans la Ligue nationale.
Ouais.
Tu sais, quand tu passes la rondelle entre tes propres patins là, pour aller la chercher, c'est pas ça qu'il a fait... Mais c'est tout le temps impressionnant de
lui,
voir.
Lui, il a fait la feinte pour la passer entre ses propres patins, mais il se l'est rapproché proche du patin extérieur.
Hallucinant.
Après, il est venu le rechercher puis il l'a monté en haut. C'était de toute beauté.
Yes.
Hey, salutations au col bleu de la Ville de Québec. Ils ont recommencé leur horaire à partir de 16h hier. Il y a des gens qui nous ont rapporté qu'il y a des trous. Des nids de poules qui sont en train de se faire réparer par les cols bleus. Donc, un gros merci. Je pense que ça va faire du bien. Je ne sais pas si tu as constaté l'état actuellement avec le redoux qu'on a eu. Puis il gèle, dégèle, mais les routes sont maganées comme pas possible.
Louis XIV a plusieurs cratères lunaires qui ont été remplis dans les 24 dernières heures. Là. Mais là, c'était rendu qu'on chauffait toutes comme des ivrognes. Là.
Mais ça, c'est depuis la dernière guerre civile à Québec?
Oui, c'est ça. Ben, le fameux bombardement lévisien qu'on appelle. Mais ça fait du bien. Tout le monde gagne à l'auto-vidange aujourd'hui.
Oui.
On est tous revenus égal dans la Ville de Québec.
Et, ce que je me suis fait dire hier chez nous, tu repartiras pas avec tes vidanges demain matin.
Ça n'a pas de bon sens. Qu'un sac par jour.
Ouais, mais là, j'ai conservé ma voie. Je pouvais plus aller dans la voie de covoiturage parce que là, j'avais plus mon sac de vidange avec moi. Fait que j'ai respecté les règles. Je suis resté dans le centre.
Il y a bien du monde qui sont considérés comme des vidanges. Hein, fait que tu es obligé de compter ça pour une personne quand tu laisses à côté de toi dans le char.
Ben là, tu pas obligé de l'embarquer non plus.
Tu peux même y nommer un nom. Tu aurais donné quel nom à ton sac de vidange?
Eh hey boy, je m'embarquerai pas là-dedans.
Toi, Denis, t'as-tu une liste?
Gilles. J'en ai d'autres, t'en veux-tu?
Non, je veux qu'on arrête.
OK, c'est bon, on va faire autre chose.
J'embarquerai pas là-dedans parce que j'en ai une qui va me taper ses doigts. Mais OK, ça pourrait être lui, effectivement. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est ça, j'ai fait la route. J'étais sur la capitale, puis je devais prendre du Vallon, donc Robert Bourassa, direction sud. Puis dans la courbe, Denis, là, comme tu disais, tu zigzags pour pas scraper tes pneus.
Ben
là. C'est tout détruit. Tu sais, la politique du plus bas soumissionnaire qu'on a au Québec là, depuis qu'on a décidé de voter ça, là, comme quoi l'entreprise qui va bêter le plus bas, c'est la meilleure des entreprises au monde, c'est elle qu'il faut que tu prennes. C'est ça tire à sa fin tranquillement, mais sûrement. Puis il y a de ça quelques années, dans le show du matin, tu avais reçu un individu, puis vous aviez parlé de ça, la politique du plus bas soumissionnaire. Puis il avait dit, effectivement, au gouvernement, on travaille là-dessus là, pour abolir cette politique-là, parce qu'on constate que c'est peut-être pas la meilleure des façons de procéder pour bâtir nos infrastructures. Je sais pas.
On constate que quand on paye plus cheap, on a du travail plus cheap. C'est un peu pareil, là. Il y en a des chandails de la Ligue nationale de hockey à 22 $ mais au premier lavage, il y a une manche qui va rester, la couleur va devenir fluo, ouais. Ça va être marqué « Canadien de Montréal ».
Même à radio, on est capable de voir qui gagne moins.
Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à partir de là, si on veut du travail, particulièrement avec les hivers, les gels et les dégels qu'on a, si on veut avoir du travail qui dure plus que 3 ans, 2-3 ans, faut réussir à investir davantage juste sur Laurentien Nord. Là.
Ouais.
Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Les canyons qui se creusent.
Les roulières.
Les roulières. Les roulières sont rendues criminellement dangereuses dans la voie du centre. Particulièrement quand il y a du trafic lourd, puis quand il y a du monde qui se dépasse et ainsi
quand
de suite.
Quand il pleut et autres. Mais moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y aurait manière de faire un constat financier du nombre de fois où on l'a refait, le coût que ça a été, versus un coût avec peut-être meilleure façon de faire et des employés, je sais pas, formés pour ça. Je dis pas qu'ils sont pas capables, mais vous comprenez le point. Est-ce que ça nous coûte plus cher, cette loi du plus bas soumissionnaire? C'est ma prétention.
Ça nous coûte plus cher, puis les gouvernements fonctionnent au mandat. Donc, tu vas payer moins cher pour de l'asphalte et des travaux de moins bonne qualité qui vont être à refaire le prochain mandat électoral. Parce que c'est pas payant pour eux autres de dire « on va payer plus cher, on va dépenser plus, ça va être des journaux, on va mal paraître, on va faire du meilleur travail qui va peut-être tenir 8 ans, 10 ans, 12 ans ». Il n'y a pas un gouvernement qui fait ça et c'est malheureux. Puis c'était Découverte, je pense, qui avait fait un reportage là-dessus sur la façon dont, justement, on met de l'asphalte en Ontario et dans le nord-est américain versus ce qu'on faisait au Québec, à moins que vous m'appreniez que la politique a changé. Mais quand on regarde autour de nous autres, c'est pas l'impression qu'on a. Ouais. On utilise de l'asphalte de meilleure qualité ailleurs.
Mais tout est normé. Ce qu'on me dit, moi, au ministère des Transports, c'est que tout est normé puis les entreprises peuvent pas tricher. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait en sorte que nous autres, on a de la difficulté puis ailleurs, ils semblent avoir moins de difficultés? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. La politique du plus bas soumissionnaire, ce qui fait en sorte qu'on est obligé de refaire nos routes chaque année ou chaque 2 ans, chaque 3 ans, ça, visiblement, ça fait travailler nos gars dans la construction.
Oui, c'est ça.
C'est-tu fait pour ça? Je me pose la question. Ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'il y avait une certaine qualité versus l'assurance qui était fournie. Donc, si tu fais un projet à quelque part, ben pour rouler sur l'asphalte tout de suite, tu peux pas le faire.
Okay.
Parce que faut que l'asphalte, elle refroidisse, puis ça prend un certain temps avant qu'elle refroidisse. Donc, tu peux pas faire rouler des voitures dessus ou des camions lourds tout de suite. Mais au ministère des Transports, on veut rouvrir les tronçons très rapidement. Fait qu'ils le font. Donc, la garantie s'annule.
Ah, okay,
pour ce qui est de l'entrepreneur qui, lui, a décidé de faire ce chantier-là. Après ça, c'est des hommes et des femmes d'affaires. Donc, oui, ils ont remporté le contrat en étant le plus bas soumissionnaire. Mais de l'autre côté, en bout de ligne, il faut qu'ils tirent un certain profit de ça. Fait que s'ils sont pas capables d'aller chercher le profit, ils resteront pas longtemps en affaires. Fait que est-ce qu'ils coupent les coins ronds? Est-ce que les inspecteurs qui sont là, puis je te l'ai déjà raconté cette histoire-là, un gars avec qui je joue au deck, il me dit « Je vous écoutais à midi là, parler de la politique du plus bas puis du soumissionnaire, puis vous connaissez rien à ça. » J'ai parfait, explique-moi-le. Puis là, il me dit « Moi, là, je suis surveillant ces chantiers, puis je veille à ce que tout soit fait, puis que tout soit fait convenablement. » J'ai dit « OK, c'est beau, c'était mon gardien à l'époque. Je salue Pierre-Luc. S'il nous écoute, il va être encore fâché. » Il dit « Explique-moi, tu sais, y a-tu des fois où tu t'es été appelé comme à l'autre bout du chantier, puis il coule quand même la matière qui ne doit pas couler. T'es, on se longtemps que tu es là, parce que toi, il faut que tu ailles prendre ton fameux thermomètre pour voir si c'était à bonne température. Ils disent oui, ça arrive, là. Je dis parfait. Je dis mais quand ils le font, est-ce que tu leur dis d'enlever le matériel, puis après ça, faire venir un autre camion pour que ce soit à bonne température? Il dit ben non, il dit parce que moi, j'ai de la pression, là. Faut ching, parce que sinon, le foreman du chantier va me chialer après.
Ben voilà.
Ben, tu es en train de dire ce que nous autres, on a dit sur l'heure du midi.
Tu sais, on observe des choses en tant qu'automobilistes qui ne font pas de sens. Tu viens de terminer des travaux sur de la capitale, puis tu recommences à les refaire où tes travaux ont débuté parce que l'asphalte que t'as mis tient pas.
Permettez-nous de se questionner.
Tu sais, déjà, il y a des roulières, déjà, il y a des manquements, puis si on veut rajouter à ça l'histoire des cratères lunaires, là, on est dans la saison des travaux temporaires. Parce que tant que ça va geler puis que ça va redégeler, on fait ce qu'on appelle du patchage en attendant les vrais travaux. Puis, tu sais, je vous parlais de Louis XIV tantôt. Louis XIV, à hauteur du Trécoré à Charlebourg, il y avait un trou monumental. Ils sont venus le patcher ce matin. Je suis passé ce matin pour aller porter mes enfants à l'autobus. Je suis repassé il y a 45 minutes. Il est déjà à refaire. Okay,
parce qu'ils ont mis beaucoup de l'asphalte froide.
C'est ça. Ouais.
Beaucoup de choses par texto. Quelqu'un qui, entre autres, dit « Oui, c'est normé, mais des fois, les entrepreneurs mettent de la marde en dessous et mettent le bon gravier sur un bon 6 pouces sur le dessus. » Quelqu'un d'autre qui dit « Au Nouveau-Brunswick, quand j'applique sur des appels d'offres, il y a toujours un système de points qui prend en compte le prix, les résultats passés, les références, si la compagnie est de la place et quelques autres petits points. » Donc, c'est pas nécessairement le plus bas soumission là-bas, puis bon, il trouve que probablement que c'est bien fait. Quelqu'un d'autre qui dit « Le problème, c'est que les normes sont pour un type de terrain seulement, mais au Québec, il y a plusieurs types de terrains, donc on ne peut pas appliquer la même chose partout. » Quelqu'un d'autre qui va avec un autre problème, qui ne serait pas nécessairement le plus bas soumissionnaire parce que même si tu prends le plus cher entrepreneur, tu vas prendre son pavage chez le même fournisseur avec les mêmes exigences que la MTQ demande pour les formules de pavage. Fait que là, ça serait un peu dans l'application qu'on est en train de trouver une problématique. Quelqu'un d'autre qui dit il y a des bons entrepreneurs, il y en a des pas bons. C'est comme les animateurs de radio. La ville ou le ministère devrait pouvoir tasser le plus bas soumissionnaire si sa cote est mauvaise. L'asphalte est posé, et c'est la même, là, ça vient des mêmes usines, quelqu'un qui réitère ça. Mais c'est l'entreprise qui la pose, pour laquelle on peut juger un peu de la qualité.
Puis là où j'embarque avec toi, Denis, à 150%, c'est est-ce qu'on pourrait faire le gros calcul sur 20 ans? Là, le nombre de fois où tu as refait ce tronçon-là versus ce que tu aurais pu faire à la place. Souvent, ils nous ont parlé des autoroutes de béton. Si tu prends Henri IV là, vers la route qui mène à la base militaire de Valcartier, c'est fait en béton. À l'époque, on m'avait expliqué, puis je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est peut-être juste une légende, mais on m'avait dit qu'on avait mis du béton à cet endroit-là, advenant le cas où il y a une Troisième Guerre mondiale, mais on pourrait mettre du matériel sur cette autoroute-là qui ne causerait pas problème parce que c'est fait en béton.
Okay.
Mais on m'a toujours dit qu'à la grandeur du Québec, si on faisait ça tout en béton, ça coûterait trop cher. Mais sur 20 ans, on est-tu gagnant ou on l'est pas?
C'est ma question. J'aimerais ça qu'on fasse un constat. Puis j'avais fait une demande d'accès à l'information à un moment donné pour une route qui était refaite. Puis ce qui était arrivé, c'était caviardé. J'avais jamais réussi à avoir une réponse.
Le cycle de la petite semaine rapporte à tout le monde. Tu fais des réparations en tant que gouvernement, ça coûte pas trop cher, puis tu te dis, ça va tenir les 4 ans du mandat, puis après ça, ben, on recommencera, ou les autres qui vont nous suivre feront la grosse job ou ils feront la même chose que nous autres. Les employés reviennent régulièrement sur les routes, donc il y a toujours de la job pour les entrepreneurs parce qu'ils sont toujours appelés à revenir. Puis nous autres, on est exigeants aussi, on fait partie du problème. On veut que les routes soient fermées le moins longtemps possible, on veut rouler le plus possible sans problème, puis ça fait en sorte que tout le monde se sent un petit peu poussé dans le cul, j'imagine, pour faire en sorte que les travaux soient vite faits, mais pas nécessairement bien faits.
Mais au bout de 20 ans, 30 ans, si tu l'as fait en béton versus où tu l'as fait constamment en asphalte, qui est plus gagnant dans l'histoire? Je serais curieux de savoir. Si vous êtes des spécialistes là-dedans, écrivez-moi 418-971-1021 par texto. Hier soir, quand je me suis couché, j'ai pensé à une personne. Non, je ne me suis pas masturbé. Éric Kerr. Il faisait bon de ne pas être Éric Kerr hier. Ça a dû être une grosse journée pour lui.
Tout le monde s'est essuyé les pieds dessus.
Puis à un moment donné...
Ça m'est-tu rendu compte?
À un moment donné, il y a comme un soulagement. C'est-à-dire là, tu as perdu ta job. Tu sais que tu restes député. Puis tu sais qu'après ça, il faudra que tu te trouves une job. Fait que j'imagine que ça a été comme un soulagement. Moi, je pense qu'Éric Kerr est détenteur d'un secret qui va peut-être nous livrer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, j'aimerais qu'il le fasse actuellement, mais il le fera pas parce que c'est un gars d'équipe, puis François Legault et lui s'aiment beaucoup. Mais je pense qu'il est détenteur d'un secret qu'il va devoir garder. Mais est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est malhonnête de garder ce secret-là et de prendre tout le blâme sur ses épaules?
Tu sais, un gars d'équipe, c'est un gars d'équipe et on a demandé à Éric Kerr de prendre la balle pour tout le monde. Mais tout le monde voit clair dans le jeu du gouvernement. Puis j'ai l'impression que l'histoire, qui a déjà changé deux fois depuis le début de la semaine, on va avoir une autre version qui va s'ajouter. Parce qu'il n'y a aucun scénario logique où Éric Kerr prend la décision lui-même de signer des autorisations pour cacher des dépenses supplémentaires de centaines de millions de dollars. Il n'y a aucun scénario où Éric Kerr a la confiance de faire ça, Éric Kerr a l'autorité de faire ça. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. C'est impossible qu'il n'aille pas demander la permission à quelqu'un de plus grand dans ce gouvernement-là. En tout cas, à mon humble avis, maintenant, on a décidé de s'essuyer les pieds dessus, puis on lui a dit... Sois un valeureux soldat, prends le texte qu'on te donne, mets ça sur tes réseaux sociaux, tu vas voir, tu te reproches rien. T'as peut-être, t'as peut-être trop fait confiance. Ça, c'est très québécois. Hein? Hey, mon plus grand défaut, là, c'est que je fais confiance aux gens. Je suis pas nono, je fais confiance aux gens. Mon plus grand défaut, moi, c'est d'être humble.
Non, mais on a tous le défaut de notre qualité. La naïveté vient un peu dans la confiance qu'on a envers les autres aussi.
Mais on s'en allait en élection lorsque lui a signé ça. C'est un dépassement de coût de 222 millions de dollars. Je suis d'accord avec vous autres que c'est clair et net qu'il n'a pas pris la décision lui-même de signer ça sans en avoir parlé à personne. Est-ce que c'est François Legault ou est-ce que c'est Martin Koskinen qui lui a conseillé de le signer puis de ne pas en parler? Parce qu'il y avait un danger pour le gouvernement. On s'en allait en élection. Il y avait un danger pour la CAQ à ce moment-là.
Là, on lui a dit, écoute, tu perds ton ministère, de toute façon, là, il y a trop de feu, il y a trop de boucanes, tu vas rester député, chill out, on termine le mandat, l'objectif, c'est de pas aller en partiel, parce que la dernière fois qu'on est allé en partiel, on s'est fait dévisser, ça a créé un buzz ultra négatif sur le gouvernement et la CAQ à la grandeur de la province. D'ailleurs, il y a des sondages qui montrent que présentement, le taux de confiance envers la CAQ est vraiment pas élevé, entre autres pour la gestion des finances publiques puis un paquet d'autres choses. Ils veulent pas aller en partiel. Fait que la négociation s'est probablement faite comme ça. Tu partiras discrètement à la fin de ton mandat, puis après ça, tu feras bien ce que tu veux. Mais Éric Kerr, je pense, est devenu tellement toxique que même Éric Duhaime s'en approchera pas alors que les deux se connaissent bien puis s'entendent bien. Là. Je sais pas c'est quoi la suite pour Éric Kerr, mais il semble être l'agneau sacrifié. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont contents. Bon, tabarnouche, t'as le temps qu'il enlève son ministère. Il y a tellement eu de scandales, il y a tellement eu de bordel. Mais même ceux qui célèbrent le départ d'Éric Kerr, tu sais, il faut s'ouvrir les yeux puis constater qu'effectivement, on l'a pitché en dessous de l'autobus pour faire en sorte que les autres restent en place. Là.
Parfait. Les prochaines élections, c'est en 2026. Ça va être le 5 octobre 2026, donc dans quelques mois. Là. La circonscription d'Éric Kerr, il est là, il est le député. Ceux qui suivent le beat à tous les jours au Parlement sur la colline disent Éric Kerr, il est très, très discret. Il semble être très, très, très discret dans son comté. Là, d'ici au 5 octobre 2026, là, on a un député qui sera probablement pas présent dans son comté, qui parlera pas à personne à l'Assemblée nationale.
Un fantôme.
Ça va être un fantôme. Oui. Je trouve que les gens de cette circonscription-là vont être mal desservis.
Ben
pourquoi
oui.
François Legault décide pas de faire des partiels à cet endroit-là?
Parce qu'il va se faire laver. Puis Éric Duhaime va rentrer. Si on regarde les projections actuelles, c'est ça qui arrive. C'est la porte d'entrée d'Éric Duhaime à l'Assemblée nationale.
Donc, on le bloque.
Ben, on fait de la politique.
C'est-tu légitime?
Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis en même temps, à chaque fois qu'il y a une partielle, on s'arrache les cheveux en disant que ça coûte tellement cher, puis ainsi de suite. Mais là, c'est pas un départ. C'est un cas d'incompétence. Puis je pense que les gens de la circonscription, il faudrait peut-être leur demander, d'ailleurs, « Hey, aimeriez-vous ça, vous autres, qu'on fasse une partielle tout de suite? » là, parce qu'effectivement, dans le cas d'Éric Kerr, il va être fantomatique, il va être terriblement discret jusqu'à la fin de son mandat parce qu'on va lui demander. Dis-le, cache-toi d'un rideau à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il a peut-être commencé hier. Il a-tu mis son masque parce qu'il avait la grippe ou qu'il pensait qu'on n'allait pas le reconnaître? Je sais pas. On le saura jamais.
C'est dur d'aller chercher une canette de Pepsi. Là,
ça n'a aucun lien, là. Mais quand je vois des gens encore arriver au Palais de justice de Québec, là, des gens qui savent que leur histoire va être médiatisée et ils n'en sont pas très fiers, ils se mettent justement ce fameux masque d'en face
ben
pour
oui.
être sûr de ne pas se faire reconnaître. Mais pour ce qui est d'Éric Kerr, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on a des photos d'avant et après.
Oui, puis tu parles de photo d'Éric Kerr. Tout le monde a stické là-dessus hier. La photo d'Éric Kerr qu'on a mis sur les réseaux sociaux de la CAQ pour le remercier de son bon travail.
Oui.
J'ai parlé avec un photographe au Journal de Québec qui m'avait avoué que quand tu voulais mal faire paraître quelqu'un, par exemple, qui est accusé au palais de justice, ben tu prenais les pires photos. Puis c'est ceux-là que tu mettais dans le journal.
Ouais.
Avez-vous vu la photo que la CAQ a mis d'Éric Kerr hier sur ses réseaux sociaux?
J'ai essayé d'en parler à Yann en début de show, là. Je suis vraiment désolée. Puis là, je me disais, ils ont-tu cherché puis ils ont trouvé la moins pire? Ou...
Non, non. Ils ont mis la photo la plus rentemplant qu'ils pouvaient trouver, puis ils l'ont mis là.
Attends, gênant. Bon,
tu l'appelles rentemplant, Star.
Oui.
Non, la photo la plus rentemplant.
Il m'avait dit à
non, il a dit la photo la plus.
Il m'avait dit qu'Éric Kerr, c'était vrai. Moi, je disais, Éric Kerr,
c'est
rentemplant.
Denis a eu un doigté politicien.
C'est pas trop ce qui se passe, il est tout le temps heureux. Les gens, ils pilent dessus, s'en rend pas compte.
Ouais.
Il a jamais rien fait de mal, mais c'est un fiasco.
Mais de toute manière, à quel moment tu remercies pour les services un ministre qui part dans ce genre de déboire-là? Faites-le à l'intérieur du parti. La gang qui vous a élu ne veut pas voir ce type de public. À moins que je me trompe, là. Y a-t-il quelqu'un qui pense que je me trompe? Si oui, 88-971-1021, j'accepte toute vision, là.
En même temps, c'est peut-être pas le timing pour faire un bien cuit, là, suite à la perte de son ministère. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires qui marchent pas. Tout le monde dans ce gouvernement-là a rien à se reprocher. Dans son annonce de départ, qu'il n'a sûrement pas écrit lui-même, Éric Kerr dit « Je n'ai rien à me reprocher ». C'est le même discours que Geneviève Guilbeault. Pourquoi Geneviève Guilbeault ne perd pas sa job?
C'est le même discours que Philippe Bande aussi.
Ben oui. Philippe Bande.
Je ne veux pas comparer leurs agissements. Je veux pas comparer leur agissement. Mais on se permet beaucoup plus sur la place publique de commenter, mettons, les déboires comme ceux de Philippe Bande, qui ne s'excuse pas. Mais en termes de politiciens qui ne s'excusent pas de cette manière-là, je vois pas les agissements, je répète, je les divise de la même manière, mais je vois l'excuse qui n'en est pas une de la même manière.
Tous les membres, tous les ministres de la CAQ se défendent avec les mêmes phrases de la même façon. Puis vous allez me dire qu'il y a juste Éric Kerr qui part en gardant exactement le même discours que Geneviève Guilbeault, que son prédécesseur, voyons, j'oublie le nom, là, celui qui a été ministre des Transports avant elle. D'ailleurs,
Bonnardel.
François Bonnardel, exactement. T'sais, tout le monde se défend de la même façon, puis il y en a un qui part, puis les autres restent. Ce gouvernement-là n'a jamais rien à se reprocher, à part peut-être d'être trop humble et peut-être aussi de faire trop confiance. On est du bon monde, nous autres.
As-tu écouté la série Trailer Park Boys?
Non, j'ai pas vu.
Avec Bubbles?
Ouais. Tu voulais faire un parallèle? c'est pas gentil, ça. C'est rentemplant à Avril aussi, ça.
Et pourquoi on les laisse démissionner? Pourquoi on les laisse démissionner? Pourquoi François Legault? C'est sûr que moi, je suis persuadé qu'il y a un deal entre François Legault et Éric Duhaime. Pas Éric Duhaime, mais Éric Kerr.
Oui.
J'ai pas d'informations à cet effet-là, mais pourquoi François Legault l'a tout simplement pas crissé dehors? J'ai mis fin à son emploi de ministre parce qu'il a menti.
Ouais. Mais c'est pas ça le message.
Ah non, c'est quoi?
Non, on laisse démissionner. Puis si tu lis très bien la déclaration d'Éric Kerr, qu'Éric Kerr n'a pas écrit, il s'en va parce qu'il est devenu une nuisance pour son gouvernement. Mais il faut bien comprendre qu'il n'a rien fait de mal et que lui n'a rien à se reprocher. Tu sais, tout est fait pour que tout le monde paraisse bien, qu'on dise pas les vraies choses. Puis là, on peut-tu passer à autre chose, là? On a fait des perquisitions dans les prisons, on fait des belles séances d'information du troisième lien. Le premier ministre se transforme en annonceur maison du Rouge et Or Football. Il a demandé à ses ministres de faire du bruit! Puis là, trouver des diversions. Éric Girard doit être sur le bord de sortir pour parler du retour des Nordiques. Là
on a annoncé...
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Bernard Drainville aussi faire une allocution.
Ben, il est reparti ses symboles religieux.
Exact.
Fait qu'il est parti sur... il est en mode diversion aussi, lui.
On a annoncé le remplaçant d'Éric Kerr assez rapidement.
Oui.
Aujourd'hui, c'est Gilles Bélanger, qui est un gars qui est autour de 67 ans. Il a quand même un bon CV, là. C'est un propriétaire de business. Lui, est dans le secteur d'Harford, puis il devient ministre. Il a contribué aussi à développer dans le secteur d'Harford toute l'Internet là, au moment où on devait faire développer ça. Il y a eu un centre d'innovation aussi. Ça semble être une candidature intéressante, là.
Fait qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire ça, ce job-là, avant?
Ben, jusqu'à temps qu'on me dise que c'est le CV que Georges, que Gilles nous mentionne, c'est pas tout à fait vrai, là. Mais pour l'instant, ça semble être un bon candidat pour prendre la place d'Éric Kerr.
Ah, il y a une petite nuance, hein. J'ai pas organisé le réseau Internet. Je me suis branché sur le réseau Internet. J'ai ouvert le Wi-Fi de mon cellulaire et je me suis branché sur le réseau.
Ouais. Éric Duhaime, c'est-tu la star politique de la semaine avec son coup fumant qu'il a fait à la séance d'information de la Coalition Avenir Québec concernant le troisième lien?
Écoute, j'aurais tendance à te dire oui. C'est une bonne semaine pour Éric Duhaime.
Pourquoi nous autres, on trouve ça? Puis dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, dans Le Soleil, dans La Presse, puis sur les sites de Radio-Canada, on n'a pas fait grand état de ça.
Je pense qu'ils n'ont pas compris la joke. Parce que c'est une joke.
Ben oui.
Éric Duhaime s'est pointé là pour rire du gouvernement.
Oui.
Tu sais, dis-lui, il se pointe là, il a une maquette, puis il s'amuse. Puis je sais, tu sais, Éric Duhaime, à une certaine époque, parce qu'il a un sens de l'humour, Éric Duhaime, quand il se prend pas trop au sérieux, moi, je me souviens que c'était déjà déguisé en clown dans le temps qu'il était chroniqueur à la radio avec nous autres pour aller à des audiences du gouvernement où il disait que tous les gens qui étaient là, c'était des clowns. Puis c'était déguisé en clown, avec le nez de clown, puis la perruque de clown, avec des amis. Il était allé là, il s'est amusé. C'est un peu la même chose qu'il a fait cette semaine. Puis j'ai l'impression que les gens... dans les médias, plusieurs, en tout cas, l'ont comme pris au sérieux, alors que c'était pas ça l'objectif de la chose. C'était de dénoncer le vide de cette campagne d'information-là, oui, sur le troisième lien, alors qu'on n'a à peu près rien à informer, puis qu'on a déjà tout fait ça il y a 10-15 ans.
Parce que ce qu'on m'a dit, c'est qu'Éric voulait présenter avec Geneviève Guilbeault sa portion à lui du troisième lien pour essayer d'économiser de l'argent, tout ce beau monde-là dans la même pièce, puis tout le monde peut se jaser. Tu sais, l'idéal, là, c'est d'avoir plusieurs cerveaux qui sont créatifs, qui peuvent trouver des nouvelles idées. Et ça a l'air que ça aurait été refusé par Geneviève Guilbeault. Fait que lui, il a appelé à l'hôtel.
Il a loué la salle à côté.
Avez-vous une salle proche? Elle a dit, ben oui, juste à côté. Il a dit, OK, c'est beau.
Je la prends.
On la prend deux jours. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Je trouve juste ça plate que les journalistes n'aient pas parlé de ce projet-là. Est-ce que c'est un projet qui est plus viable que celui de Geneviève Guilbeault? Moi, je pense que pour l'instant, on pourrait les considérer les deux parce qu'on n'a pas vraiment plus d'informations.
L'autre bon coup d'Éric Duhaime cette semaine, c'est qu'il a été le premier à souligner que le gouvernement n'irait pas en partiel, puis qu'on allait sûrement garder Éric Kerr en nous référant à des sondages qui nous montrent que si jamais on s'en va en partiel, la CAQ va se faire humilier. Puis il sous-entend évidemment que ce qu'on essaye d'empêcher, c'est son entrée à l'Assemblée nationale. Au total, tout, c'est une très bonne semaine pour Éric Duhaime, puis c'est moi qui vous le dis, puis vous savez que depuis qu'il est rentré en politique, je le ménage pas bien, là. Je trouve qu'il est parti dans des chasses aux sorcières trop souvent.
Les drag queens!
Oui, faut les dragon queens, là. Faut enlever les dragon queens des yeux de nos enfants, puis ainsi de suite.
Mais t'as raison, il y a d'autres choses.
Oui, puis j'ai hâte que les conservateurs, dans l'ensemble, reviennent à la rigueur économique. Je pense que tout le monde a besoin de ça en cette période d'inflation. Puis peut-être laisser un peu le caricatural puis le folklorique de côté, là, tu sais.
Exact. T'as-tu des gros projets pour ce week-end?
On recommence à jouer au hockey.
Oh, l'horaire des cols bleus, là, c'est-tu revenu, les arénas et tout?
Ben écoute, les associations de hockey avaient monté un horaire d'urgence pour la fin de semaine. Il reste en place. Et à partir de lundi, ben là, tout le monde reprend son horaire normal. Donc, les pratiques qu'on pensait pas avoir vont avoir lieu. Puis le reste du calendrier, jusqu'à nouvel ordre, à tout le moins, ben on revient au calendrier normal à partir de lundi. Je sais qu'il y en a que ça recommence en fin de semaine, mais du côté de hockey Charlebourg, il y avait des ententes avec l'aréna de Loretteville et ainsi de suite. Fait qu'on va jouer des matchs réduits en fin de semaine. Puis à partir de lundi, ben c'est le retour à la normale pour nos kids. C'était la seule alternative pour le syndicat des cols bleus.
Oui, effectivement, que ça tienne pour... Faut que ça tienne pour la semaine de relâche.
Ah oui, oui.
Merci, Denis.
Hey, merci à vous autres.
Bon week-end.
Bonne fin de semaine.
Après la pause, c'est les jokes de mon oncle. Pascal adore ce segment-là. Elle a toujours, elle a toujours les meilleurs jokes. C'est un nouveau restaurant qui s'ajoute, Pascal, aux fromageries Victoria. Tiens, aujourd'hui, je vais prendre ce restaurant-là. C'est le restaurant Pat Smoke Meat. Tu as déjà été manger un smoke meat là?
Oui.
C'est le meilleur smoke meat au Québec. Donc, ça va être un 50$ à gagner chez Pat's Smoke Meat aux Galeries Chagnon. C'est un resto qui va pouvoir vous surprendre. Vous n'avez pas aidé. Donc, merci beaucoup à la belle gang de Pat's Smoke Meat qui ont entendu les jokes de mon oncle puis ont dit « Hey, on veut aussi greffer notre nom à ces fameuses blagues-là à Pascal. »
Les miennes, tes favorites et je gagne tout le temps.
Exact. Puis on va avoir notre Nathan virtuel aussi qui n'est pas là en présentiel, mais qui nous a enregistré 5-6 jokes.
Ah, oh, super, j'ai hâte. C'était pas malaisant partout la semaine passée. En passant, il y a des auditeurs qui m'en avaient envoyé sur Instagram récemment.
Oui.
Si jamais, vous pouvez juste me renvoyer.
Hein? 418-971-1021, 418-971-1021. C'est valable pour un 50$ chez Pat
Denis, tu restes? T'aimes ça mettre ta job en jeu?
Ah, ben oui, c'est devenu une habitude.
T'aimes ça, le risque, toi? Ça te donne des petits...
Non,
c'est, risquer... quelque chose à l'intérieur,
non,
là.
Denis, on ça dit t'excite. Qu'il y a un cours d'une heure sur la météo. Ah. Il va commencer dans les prochaines secondes. Salut, Denis.
Salut.
Bye.
Le samedi 22 mars.
Bye. Midi 34 minutes, les jokes ont commencé à rentrer. Donc, on va s'enligner dans les prochaines secondes sur les jokes de Mononcle à Marceau qu'on fait à chaque vendredi quand c'est possible. La semaine prochaine, je suis en direct du Salon de l'Auto. Fait que ça se peut qu'il y ait une semaine de relâche.
Pardon?
Ben, t'es pas là.
OK. Mais il me semble que quand toi...
C'est Jacinthe-Ève qui va être là.
Mais quand t'étais pas là puis Jacinthe-Ève était avec moi,
ouais.
Tu m'as presque obligé à les faire.
Elle les a-tu faites?
Ben non.
Elle les a pas faites.
Mais tu m'as ramassé là, comme un troc savin qui a pas vu le chevreuil.
Exact.
Fait que là, il se passe quoi la semaine prochaine?
Écoute, je vais essayer
va les faire.
Je vais essayer de la pousser dans la perversité et de faire des jokes de mon oncle avec moi.
Au Salon de l'Auto devant tout le monde?
Devant tout le monde.
Super.
C'est un défi que tu me lances?
Mmh.
On le fera. 418-971-1021, si vous avez des jokes de mon oncle que vous voulez entendre à la radio, ça nous prend des bonnes jokes. Là. Et c'est Pat Smoke Meat, 50$ chez Pat Smoke Meat à gagner, à celui qui nous aura fait la meilleure blague. Pascal, est-ce que t'es prête?
Je suis prête.
T'es prête comment, mettons?
Très prête.
Dans le genre très, mettons, à 150%?
Mais je vais me garder une gêne, 90.
Voici l'hymne national. C'est moi qui commence.
Hein, vas-y.
Pour les gens qui sont outrés facilement, vous pouvez descendre la radio. Pour les autres, vous pouvez monter le son. Pascal!
Yannick!
Sais-tu quand est-ce que j'ai découvert que j'étais plus une petite jeunesse?
Non.
Quand je me promenais sur le trottoir puis les curés me faisaient plus un petit sourire.
Ouch. Avec l'actualité d'aujourd'hui, Yannick.
On en veut des jokes de curé.
Yannick, y a un touriste étranger qui demande à un Québécois « Hey, c'est quoi le meilleur moyen pour se rendre à l'hôpital? »
Ouais.
Le Québécois répond « Traverse la rue sans regarder.
» Ouais.
Non. Ah! Oh!
Mon petit Nathan Meilleur virtuel est avec nous autres. Il nous a préparé des jokes.
À 10h hier soir. Ça me fait peur.
C'est 10h hier.
C'était 10h hier soir.
Fait qu'il est il était probablement déjà sous. Je les ai pas écoutés. Fait qu'on va les écouter ensemble.
Alors, ça va comme suit. Comment être sûr d'énerver sa femme quand vous êtes affalé sur le divan? Elle vous surprend là, puis elle vous demande « Qu'est-ce que tu regardes, là? » Hein, exactement? Faut lui répondre « Le ménage que t'as pas fait. »
Oh. Oh! Oh, Nathan!
Matin, c'est la meilleure. Pascal!
Il y a une femme qui donne une petite bouteille de pilule bleue là, à son mari pour ses problèmes érectiles.
Oui, Viagra.
Il en prend une, ça fonctionne. Écoute, l'effet opère. Là, la femme, elle se déshabille, elle veut en profiter. Mais l'homme, il tient pas son érection. Puis il dit, « T'as vu, même drogué, il te reconnaît.
OK, Pascal, l'histoire que je vais te raconter, ça se passe dans une classe où il y a une enseignante avec ses élèves.
Ouais.
Et là, il y a une enseignante qui pose la question à la petite Océane. Donc, elle dit, « Océane, quelle est la dernière lettre de l'alphabet? » Et Océane dit,
« Ben,
c'est le T, madame. » Et là, l'enseignante dit, « T'es sûr? Ce serait pas plutôt le Z, la dernière lettre de l'alphabet? » Elle dit, « Non, si c'était le cas, on dirait alphabet. »
Oh. Sérieux? Ah, oh, te l'a donné.
Ouais,
tu veux jouer là-dedans? Parfait.
Il y avait moins 23, comme... tu sais, les pouces en haut, pouces en bas.
Oui, moins 23 pouces en bas.
Il y avait un déficit de moins 23.
OK, combien tu vas en avoir là-dedans? Il y a deux boulettes de viande qui jouent à cachette, Yannick, OK?
Oui.
Deux boulettes qui jouent à cachette, puis l'une dit à l'autre, où c'était caché? Hey, là!
Manamana.
Tu l'as même pas comprise!
Manamana.
Yo!
Manamana.
Euh, Hey, la petite génération d'en dessous qui te fait une joke des années 80. Elle l'a jamais entendu. Quelle enfance de marde. Louis qui dit « Salut! Savez-vous c'est quoi la différence entre un importé et un livre? »
Hippelay, là, franchement.
Pascal, c'est quoi la différence entre un importé et un livre?
On dit pas ça de même, OK? Me dit.
Le livre, au moins, lui, il a ses papiers.
Ah! Oh.
Non!
Ouais. Celle des lois, mettons, là, moi, je lis pas ça.
Celle des lois.
Lois, moi, je lis pas ça, Yannick. Nathan pourrait la lire, moi, je lis pas ça. Non.
OK. Fait qu'on va y aller avec celle de Nate.
Ouais.
T'es prête?
Oui.
La joke 2 de notre Nate virtuel.
Pourquoi 88-40-100 sont les meilleures mensurations pour une femme? Tu sais, on parle souvent du 36-24-36, mais pourquoi 88-40-100 sont les meilleures mensurations pour une femme?
Ça, c'est
88 ans, 40 de fièvre, 100 millions dans le compte de banque.
Ouais. Wow. Ouais, c'est bon. Bonhomme. 50$ à gagner chez Pat Smoke Meat. Ça nous prend la meilleure joke. 418-971-1021. 418-971-1021. Pascal.
François Legault et Vladimir Poutine sont sur un bateau. Legault tombe à l'eau. Il se noie. Qui est sauvé? Le Québec.
Pascal.
Oui.
Et tabarouette, il y en a là, qui sont vraiment hardcore. Benjamin. Qui dit « Pascal,
oh, pourquoi arrêter de me nommer?
Sais-tu quand est-ce que t'es officiellement vieux? »
Chien.
« C'est quand que, lorsque tu tombes, au lieu de rire de toi, les gens dépêchent à te ramasser.
»
OK, Yannick, reste concentré sur celle-là, OK? Qu'est-ce que deux chiens qui se rencontrent à Tokyo se disent? Deux chiens se rencontrent à Tokyo, ils se disent quoi?
Ouf.
Japon. Ah, OK, celle-là était ni bonne ni mauvaise.
OK, une autre petite blague ici. Elle est soft, celle-là. C'est deux pénis, Pascal, qui se rencontrent.
Mais là, à date, c'est pas très soft.
Il y en a un qui dit au premier... je te sens tendu ces temps-ci. Et l'autre de répondre, oui, j'ai un oral dans 5 minutes.
Oh, oh, oh. Eh, quand même pas.
Est-ce
qu'on est immature? Qu'est-ce qu'il y a 120 yeux et 3 dents, Yannick?
Un autobus de personnes âgées.
Oh! Non, j'ai vu ce que tu viens de lire. On va pas là.
Antoine, qu'est-ce qu'il dit, Antoine? C'est deux cacas qui vont à la guerre. En chemin, ils rencontrent une diarrhée qui leur demande si elle peut venir. Les deux cacas refusent. Alors, diarrhée se demande pourquoi. Les deux cacas lui répondent parce que la guerre... C'est fait pour les durs.
Bonhomme.
Pas mon genre.
Bonhomme.
T'as-tu écouté toutes les Rockabilly Zaré dans le temps?
Oui, ben beaucoup, mais pas toutes.
Tu viens-tu de la phase anale? C'est normal, c'est ta phase anale. Tu t'amuses avec ton caca. Si papa te fait la morale, dis-lui qu'il est passé par là.
Moi, c'est pas celle-là que je
retenais. T'es pas encore rendu là, visiblement.
Yannick, ta blonde te demande, tu ferais quoi s'il te restait seulement une heure à vivre, mon amour?
L'amour.
Toi, tu répondrais l'amour et elle te répondrait, puis les 57 autres minutes, Yannick.
Bitch.
Non. Celle-là, c'est inacceptable, Alain. Vraiment, là, c'est Seigneur qui dépasse les bornes. Comment on appelle deux jumeaux, ben des jumeaux chinois qui vont à l'école?
Je sais pas.
Un duo Tang.
Bonhomme.
Alain.
50$ à gagner chez Pat Smoke Meat, 418-971-1021. Envoie-nous ta meilleure blague. On s'en va du côté de notre Nathan virtuel.
Est-ce que vous savez qui est le chevalier? Quel chevalier a inventé la table ronde du roi Arthur?
C'est pas...
Quel chevalier a inventé la table ronde? C'est le Sire Conférence.
Ah, cute, je l'aime. Je l'aime. Qu'est-ce que TPS veut dire, Yannick? Tu payes en sacrament.
Ah, c'est une fois une bonne mère de famille et son enfant qui ont une discussion et l'enfant pose la question à la maman. Maman, est-ce que toi, tu voulais un gars ou une fille? Et elle de répondre, moi, je voulais juste attacher mes souliers.
Yannick, j'ai demandé à mon père c'était quoi sa meilleure joke à vie.
Oui.
Il m'a dit toi.
Est-ce que vous savez qui est le chevalier? Quel chevalier?
Ça, c'est fait. Invent...
C'est l'histoire d'un homme qui est jugé pour meurtre et qui comparaît au tribunal. Le juge s'adresse à lui pour lui annoncer ses crimes. Il lui dit « Monsieur, vous êtes accusé de double meurtre. D'abord auprès de votre épouse que vous avez sauvagement abattue à l'aide d'un marteau. » Là, à ce moment-là, il y a un homme dans la salle qui se fait entendre, qui dit « Mais quel emmerdeur! » Le juge reprend. « Puis vous êtes accusé aussi d'avoir abattu votre fille à l'aide du même marteau. » Le même homme dans la salle encore une fois. « Mais j'en reviens pas! Ça n'a pas de bon sens! » Là, le juge décide de s'adresser à lui puis lui dit « Monsieur, je peux comprendre votre colère, votre dégoût face à ces crimes abjects, mais je vous demande de rester calme. » Et là, l'homme répond « Mais comment voulez-vous que je reste calme, monsieur le juge? Pendant 10 ans, j'ai été le voisin de cet enfoiré. Chaque fois que je suis allé lui demander un marteau, il m'a dit qu'il n'y en avait pas. »
C'est une pièce de théâtre, son affaire. Ah, oh, cet auditeur-là, il est allé loin, Yannick. Là. Les deux oreilles d'Éric Kerr se chicanent.
Ouais.
Il y en a une qui dit à l'autre, « Pourquoi on chicane? Il n'y a jamais rien entre nous autres. »
OK, celle-là est un peu hard.
Pas celle des lois, pas celle des lois.
On va faire celle des lois. Qu'est-ce qu'il y a de positif si une prostituée, quand même d'un certain âge, meurt sur toi? Pascal?
Je veux pas le savoir.
Qu'est-ce qu'il y a de positif si une prostituée de quand même un certain âge meurt sur toi?
Je veux pas le savoir.
Pendant l'acte, c'est que la deuxième heure serait gratuite. Selon les lois.
Non.
Non, hein.
Hey!
Nate virtuel!
C'est l'histoire d'un homme qui est dans le cabinet de son médecin. Il attend des résultats d'analyse. Il est très inquiet, il est stressé. Et son médecin le sent qu'il est stressé. Donc, il décide de débuter en essayant de détendre l'atmosphère, au fond. Fait qu'il demande à son patient, « Dites-moi, quel est votre signe zodiaque? » Fait que le patient répond, « Moi, je suis cancer. » Le médecin répond, « Ah, tiens donc, quelle coïncidence!
» En passant, Nate est un survivant du cancer. Là.
Oui, oui,
c'est
faut le dire.
C'est le seul qui peut faire ces jokes-là.
Ça, je trouve ça lourd, mais acceptable pour Nathan. Sérieux, Dominique qui a trouvé ton humour, Yannick. Là. Comment on appelle un homme célibataire en japonais?
Je sais pas.
T'as quitté ta conne?
C'est pas drôle.
Non.
On reprend un joke de Malon la semaine prochaine, vendredi. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis Pascal va choisir celui qui gagne le 50$ chez Pat Smoke Meat dans les prochaines secondes.
Pas toi, Dominique.
All right.
1854, ça a brassé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mm-hmm. Trump qui a dit à Zelensky de se calmer s'il voulait pas partir de la Troisième Guerre mondiale. C'est assez particulier.
Une rencontre à haut risque, c'est comme ça qu'on la décrivait, mais il n'y a pas juste Zelensky là-dedans. Là, je veux dire, il y a Vance aussi. C'est une rencontre de malaise. J'ai l'impression qu'officiellement, c'était calculé la manière dont on allait accueillir l'homologue ukrainien, là, Zelensky. Puis c'est, je veux dire, tu sais à quoi ça me fait penser? Un dîner de cons. J'ai l'impression qu'il l'accueillait comme le film. Viens nous faire ton beau petit pont en cure-dent. Puis je trouve ça épouvantable.
Moi, j'ai l'impression que Donald Trump voulait faire une démonstration de force. Il voulait montrer aux États-Unis, à la planète entière, de quelle façon il négociait. Puis de montrer à un président d'un pays qu'il faisait pas peur à personne. Fait que c'est assez particulier, là, la rencontre. J.D. Vance aussi qui s'est mêlé à la discussion. Tout ça a été filmé. Donc,
OK, mais je te ramène à quelque chose.
Si on a des extraits, on va vous faire jouer ça tantôt.
Quand ça a éclaté, là, cette guerre-là, Ukraine-Russie, bon, on jasait plein d'affaires, puis après ça, à un moment donné, toi et moi, on a commencé à travailler ensemble, puis on analysait nos comportements émotifs versus politiques rationnels face à une guerre. On commence à bombarder ici à Québec. Tes enfants, ça implique un manque de sécurité pour eux. Toi, tu veux les défendre assurément et tout. L'émotif va assurément prendre plus de place que le rationnel pendant un petit bout, OK? Là, t'as Donald Trump qui dit à Zelensky, « Oh, ben là, pas d'entente sans compromis », puis qui le fait passer pour un esprit d'imbécile aux yeux de tous et du monde en entier, parce que les médias sont devant, au profit d'avoir probablement débloqué certaines sphères à Vladimir Poutine, qui est à la tête de la Russie, parce qu'on sait qu'il y a une meilleure alliance entre les États-Unis et la Russie en ce moment, ce qui est particulier parce que c'est la Russie qui a décidé d'envahir quand même l'Ukraine. Mais au bout de ça, puis c'était toute la semaine sur quoi j'ai lutté, il y a des morts, il y a des gens qui ont payé de leur vie sans le vouloir. Il y a des communautés, autant en Russie, qui n'étaient pas d'accord d'envahir l'Ukraine et en Ukraine, veut pas, qui n'étaient pas d'accord à se faire envahir. Et il y a des gens qui ont été dans des scènes sanguinaires. Il y a eu des viols, il y a eu tellement de choses dans cette guerre-là. Puis ce qui est traduit en ce moment aux États-Unis, là, c'est un genre de dîner de cons pour essayer de régler, pour faire des compromis. Moi, là-dedans, ça me dérange énormément qu'on fasse passer Zelensky pour un grand stupide de ce monde avec tout ce qui est émotif, tout ce qu'il a vécu, pour peut-être tenter un cessez-le-feu, mais en forçant la main puis en oubliant toutes les souffrances et la violence.
Moi, j'ai pas les informations des Américains concernant Zelensky, là, mais ce que la porte-parole de la Maison-Blanche avait mentionné, c'est qu'il manquait beaucoup d'argent. On parle de centaines de millions de dollars. Est-ce que c'est une façon de mettre de la pression sur Zelensky ou ils ont vraiment de l'information là-dessus? Moi, je veux juste que ça arrête. T'sais. Les États-Unis, à chaque fois qu'ils se mêlent d'un conflit ailleurs, ben, des fois, ils réussissent, mais après ça, quelques années plus tard, ça revient tout comme c'était avant.
C'est souvent pour des avantages pécuniers et non humains, malheureusement.
Les soldats canadiens qui ont été en mission en Afghanistan sont découragés de voir à quel point l'Afghanistan est revenu comme avant.
Et pire,
des fois, ils ont l'impression, ils ont risqué leur vie, il y en a qui ont perdu leur vie. Mm-hmm. Pis, je veux juste que cette guerre-là, qui est un peu bizarroïde, arrête.
Puis tu sais, le président...
De voir comment ça se règle, je sais pas. C'est-tu la façon de régler ça en 2025? C'est pas à moi de répondre.
Ils sont pas avec les politiciens qu'on a, Yannick, j'ai l'impression que ça va être ça, puis il est là le problème. Puis Zelensky, est-ce qu'il est tout blanc? On le sait pas, mais il y a des enquêtes, il y a des choses qui étaient discutées sur lui aussi avant cette invasion-là de la Russie sur son territoire. Mais reste que c'est l'humain qui prime derrière tout ça.
C'est que la guerre arrête. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures. Mais si on a des extraits, on va vous faire entendre ça dans les prochaines minutes. Sinon, Denis va être avec Véro, puis ils vont vous faire entendre ça très certainement. Mon chum Marc Desgagnés d'M2 Gaming est en studio. Salut, man!
Hey, comment ça va?
Très content de te voir. En plus, t'arrives avec le soleil.
Hey, I feel good!
Il est craqué.
M'a profité du fait que t'es là pour me défouler un peu sur mes enfants. Puis tous ceux qui ont des enfants là, qui jouent à des jeux vidéo avec la console de papa, eh bien, les papas ont tous vécu ça, là, des manettes qui sont tout pétées. Là, moi, j'ai deux manettes que j'avais achetées quoi, autour de 95$, là, sans fil, qui sont pétées des deux côtés.
Oui, c'est un peu étonnant vu que c'est la tienne, parce que nous, dans notre cas, quand on était jeunes, si on brisait une manette, mais on rachetait juste pas. Mettons qu'on était fâchés et on la pitchait là, à terre ou on n'en prenait pas soin. C'était comme les
ils
filles.
Rachetaient pas.
Il n'y en aura pas d'autres après.
On dirait que les manettes ne coûtaient pas si cher dans le temps. Là, ils m'ont fait acheter des casques là, pour communiquer entre eux et leurs amis. C'est 160$ du casque. Des fois, là, je ramasse ça, c'est à côté de la litière des chats. Je me dis, ça va, c'est quand même 160$ que vous venez. Il y a d'autres qui s'en sacent comme dans l'an 40.
Peut-être le chat joue à Fortnite et ça va pas.
Moi, je joue pas à énormément de jeux. Là. Quand GTA S6 va sortir, c'est sûr que je vais jouer avec. Mais pour l'instant, je me concentre sur le hockey. Puis là, c'est rendu que mon bonhomme, il patine, mais là, il patine de travers.
Ouais.
Parce qu'ils ont pesé trop fort sur la manette. Mm-hmm. Là, mes deux manettes sont de même. Marc, qu'est-ce que je dois faire? Remplacer mes manettes ou remplacer mes enfants?
Moi, j'opterais pour les enfants. Non, mais c'est sûr que t'es faite. Quand t'es un papa puis on a des enfants en bas âge, ben il faut faire avec. Hein? Qu'est-ce que je te disais tantôt, c'est que les enfants n'ont pas la même perception de la valeur des trucs que nous. Puis maintenant, non, Yannick, c'est pas plus cher maintenant que c'était dans le temps. Encore une fois, c'est une question de perception, parce que dans le temps, des affaires qui coûtaient 50-60$, tu sais, recule avec ce que valait l'argent puis le coût de la vie du temps.
Ouais.
On a fait l'exercice de notre côté pour les consoles, pour les jeux, les choses comme ça. Puis tu te rends compte qu'aujourd'hui, bizarrement, ça coûte même moins cher que dans le temps versus ce qu'on peut, tu sais, le coût de la vie et compagnie. On sait que ça coûte cher.
On n'avait pas de casque d'écoute, Marc, là. Ben, il n'y avait pas de casque d'écoute pour jouer à des jeux. Les manettes n'étaient pas sans fil.
C'est ça que je te dis. Les technologies d'aujourd'hui sont bien différentes de celles qu'on avait dans le temps en plus. Là. Les consoles, dans le temps, là, tu mettais une cartouche dedans, puis c'est ça que tu avais. Mais maintenant, les consoles font à peu près tout. Ils te permettent d'aller sur des applications, d'écouter des films, d'écouter de la musique, de lire tes lecteurs, tes DVD, tes Blu-ray, jouer à tes jeux, aller sur Internet. Tu peux faire plein d'affaires.
Quelqu'un qui demande, est-ce que c'est vrai qu'il y a des manettes qui sont réparables?
Ben, les manettes, ça dépend de la
bouille. Mais il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a appris à réparer les manettes de PlayStation à cause de ses enfants qui scrappaient.
Oui, mais ça dépend c'est quoi le problème. Les problèmes de drifting, souvent, oui, ça peut être réparable, mais encore là, faut que tu t'aventures dans quelque chose. Tu sais, il y a beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui, YouTube est ton ami, hein? Mm-hmm. Sur YouTube, t'as des do-it-yourself, là, t'en as plein. Là. Fait qu'ils te montrent comment, mettons, ouvrir une manette, quoi faire attention, comment débrancher les petits connecteurs dedans pour être sûr de les rebrancher correctement par la suite. Puis tu fais ton ménage. Tu sais, il y a bien souvent des... Il y a des problèmes avec le drifting qui viennent... Tu sais, c'est pas des erreurs de drifting à cause du code. Le drifting, c'est un peu la dérive que tu parles. C'est quand, mettons, tu touches pas à ta manette...
Ton bonhomme
se promène pareil. Il tasse d'un bord.
Il se promène de travers. Ouais.
C'est ça. Fait que ça peut être de l'usure interne de certaines pièces, mais ça peut être l'usure aussi du tour. Tu sais, on a des joysticks, là, vraiment. Bien, à force de faire le tour puis des tournées tout le temps, il se crée une genre de petite couche de poussière. La petite couche de poussière va rentrer à l'intérieur, va comme obstruer certains contacts. Fait qu'il y a ça. C'est pas le cas, mettons, avec la Switch. C'est pas tout à fait comme ça. C'était d'autres problèmes vraiment plus au niveau informatique, là, d'interférences, de toutes sortes de choses comme ça.
Jeff,
mais oui, ça se répare.
Jeff nous écrit au 418-971-1021 par texto. Il dit, moi, j'ai un gars qui me répare ça 15$.
Oui.
Mais est-ce que c'est, mettons, un kit ou double, dans le sens où tu peux aller voir quelqu'un pour ton cellulaire aussi si tu pètes la vitre pour 15$, mais tu sais jamais s'il va falloir que tu en rachètes un autre ou ça va avoir fonctionné.
Tu sais jamais s'il va regarder tes photos aussi, des photos compromettantes.
Pourquoi il y aurait mes codes?
Ben, parce qu'ils rentrent dans ton cellulaire, non? Moi, ils m'ont demandé mon code de cellulaire quand j'étais
chez... Mais tu mets pas tes affaires dans
juste à vitre.
J'ai été chez SOS Phone, ils m'ont demandé mon code de cellulaire.
Je comprends, mais dans masquer, il faut ta face pour l'ouvrir.
Une bonne question.
Puis encore là, je veux dire, on fait... mais c'est pas, ça nous rejoint pas. Là. On a toujours dit en onde qu'on n'avait pas ce genre de truc-là dans nos selles.
Ben moi, j'en ai, mais c'est de toi.
Ben, fuck!
Je suis témoin.
Hey, là, les gens qui vont croire ça.
Je suis témoin, je vois des choses passer des fois.
Mais voyons! Franchement.
OK, mais fait que ça serait pas...
Non, mais excuse-moi, mais tu baisses cet enfant-là qui est fâché.
C'est tellement mon oncle. C'est tellement mon oncle!
Hey!
On fait les jokes de mon oncle.
Je suis un vieux monsieur.
Mes deux épouvantails, vous autres, au cachot!
Mais c'est ça, pour réparer les manettes, ça a l'air que ça peut coûter 15$. Puis Jennifer qui nous écrit, qui elle a appris comme toi, tu nous as mentionné, elle est allée voir sur YouTube, puis elle était capable de réparer la fameuse dérive que tu peux avoir sur tes manettes. J'ai un autre problème avec mon Xbox. Tu sais que le ventilateur, là, bon, il pousse l'air chaud par le dessus du Xbox?
Oui.
Bon, t'as-tu des animaux de compagnie, toi?
Oui.
Bon, les chats?
Oui.
Ils vont se positionner là aussi?
Ben, la mienne, elle fait pas ça. Je suis chanceux.
OK.
Là.
Moi, j'ai deux chats pas de poils. Ils ont de l'air ridicule. Mais, tu sais, ils vont là. Puis des fois, ben, ils ont de la poussière en dessous des pattes, ce qui fait en sorte
La litière.
C'est une grille, de la litière. Mm-hmm. C'est une grille. Fait que la poussière tombe là. Y a-tu moyen pour moi d'enlever ça? Faut-tu que j'ouvre ma Xbox?
Encore une fois, oui, ça s'ouvre. Je te dirais que c'est assez facile, mais tu sais, il faut... Oui, encore une fois, je vais revenir avec YouTube. C'est pas une question de plugger YouTube, mais c'est parce que toutes, à peu près, les façons de faire pour ouvrir les consoles, puis qu'est-ce que ça te prend exactement? Parce que des fois, c'est des petits tournevis, des Philips là, qui appellent, ça prend, mettons, un tel type d'étoile, tel type de scie pour être capable d'accéder à telle vis. Des fois, tu les vois pas. Fait que là, en voyant ces vidéos-là, tu vois où aller chercher. Tu, OK, c'est ça. Faut que j'enlève telle chose de caoutchouc. Faut que je vois. Puis en général, ouvrir la coque des consoles, c'est général, c'est assez facile. Fait que oui, tu peux faire un ménage comme ça, même que je te dirais, c'est comme un ordinateur. Tu sais, les ordinateurs, c'est plus gros, mais comme à la fois les ordinateurs, on ouvre le côté, on va le passer à l'air comprimé ou des choses comme ça pour enlever la poussière, bien, les consoles, une fois de temps en temps, c'est pas mauvais de le faire aussi.
Ça pourrait être la même
affaire. Peut-être une fois par année, là, ouais, c'est une bonne affaire. Ouais. Parce que tout dépendant de ton environnement, là, je veux dire, des animaux de compagnie, bien... Toi, les tiens, tes chats, ils n'ont pas de poils beaucoup.
Fait qu'ils vont se réchauffer là, ils se réchauffent, c'est qu'elle aime faire.
Mais moi, chez nous, on a un genre de chatte d'Espagne, tu sais, elle a le poil long. Là. Fait que si, en plus, il fallait qu'elle aille sur les machines, ça serait problématique.
Elle, elle veut se cacher dans le frigidaire.
Oui, c'est ça.
All right. On parle d'actualité dans le monde du gaming aujourd'hui.
Ouais. Ben écoute, on parlait des consoles, justement. Je vous ai parlé, là, quelques mois, de la PlayStation 5 Pro, hein, qui apportait quelques petits avantages. Moi, j'ai dit qu'on a calculé environ 15 et 20 % d'avantages en gains de performance puis de capacité sur la PlayStation 5 de base.
Les gens avisés vont-tu s'en rendre compte, ça, de ce fameux 15-20 %-là? Écoute, ou ben, les gens comme moi, ils vont s'en rendre compte?
Ben, en général, c'est parce qu'en partant, quelqu'un qui veut s'acheter une PlayStation 5 Pro, je pense que ça va parler aux hardcore gamers, ils sont déjà avisés, ils savent. T'sais, c'est pas monsieur, madame qui veulent acheter une console à leurs enfants qui vont se garocher sur une PlayStation 5 Pro à 1000$ en partant. T'sais. Ils disent, OK, il y a une PlayStation 5 de base qui coûte 650, ben on va aller vers ça, je pense, logiquement. Mais comme je t'ai dit, les joueurs qui sont habitués, qui connaissent ça, puis qu'eux autres, ils veulent avoir un petit avantage supplémentaire. Oui, c'est possible. Mais par contre, oui, ça coûte cher. Hein? Parce que vous avez parlé, le prix, c'est 959 $ ici au Canada. Okay. Puis t'as pas de lecteur disque avec. Puis en plus, t'as pas de trépied, ce qui est une insulte tant qu'à moi. Là.
Mais les lecteurs disques, Marc, je sais que t'es fâché, mais ça va disparaître.
C'est pas, non, mais dans ce cas-ci, c'est pas la question. C'est parce que dans la... Ben là, on va dire l'ancienne version, la première version, la PlayStation 5 normale, t'avais le lecteur de disque ou tu pouvais acheter la version pas de disque, qui était moins cher.
Uh-huh.
Après ça, ils sont arrivés avec la Slim, qui est un petit peu plus, on va dire, mince, là, qui n'est pas tellement moins grosse, mais une petite affaire. Là, ils ont décidé de, OK, on ne met plus le lecteur disque ou on va te permettre d'enlever un couvercle. Mais oui, tu peux t'acheter le lecteur disque amovible toute seule à part si tu veux vraiment tes disques. Fait qu'ils vendent la console avec pas de disque, mais tu peux l'attacher. La PlayStation 5 Pro aussi, c'est possible. Mais c'est parce que là, on parle d'un prix qui est quasiment 400$, si c'est pas 500$. Tu sais, tout compté, là, si tu veux, mettons, lire tes jeux, tu en as des disques chez vous. Là. Tu dis, OK, on s'en va vers le numérique, mais c'est parce que pour là, on a encore beaucoup de gens là, qui ont des jeux sur des disques, là, des CD.
Mais c'est appelé à disparaître. Là. Je parlais avec un gars au Guerrilla Capital, puis lui, il y a une fameuse boutique où il fait de la revente de jeux. Puis je dis, puis comment ça va? Ça va pas bien pantoute. Là. Les gens, ils téléchargent leurs jeux dans leur Xbox ou dans leur PlayStation, puis ils vivent avec ça jusqu'à temps que ça disparaisse.
Oui, bien écoute, je pense qu'il va rester un pourcentage de format physique encore. Ouais. Qui va de plus en plus devenir des formats, on va dire, collectionneurs, parce qu'il y en a déjà, là. Il y a beaucoup de compagnies qui, mettons, c'est pas Sony, c'est pas Xbox, c'est d'autres compagnies comme Limited Run Games, des choses comme ça, qui, eux, ont développé une business de dire, vous le faites pas, nous autres, on va le faire. Donnez-nous le droit, les droits pour ça, on va imprimer des disques dans des formats spéciaux avec, mettons, la bande, la soundtrack.
Ouais.
On va mettre des images spéciales. On va mettre plein de choses dedans spéciales pour faire un coffret de collectionneur. Puis ensuite, on va le vendre. Nous, on va le faire. Fait que Sony, lui, il se garde. OK, ben Sony ou Xbox, peu importe. Là. Il se dit, bon, OK, nous autres, ce qu'on fait, on s'occupe plus de ça. Là, on se bat plus avec les formats physiques. On laisse ça à ces compagnies-là qui vont le faire, qui va devenir peut-être des éléments un peu plus nichés, mais ça va toujours exister parce que du monde qui aime ça, des formats physiques, ça va toujours exister.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour, ils vont repermettre à leurs joueurs de pouvoir échanger des jeux ou revendre des jeux?
Ben, tu parles au format numérique ou...
Parce que je me souviens, les Sims, là, pour ma génération, là, il y avait un nombre maximal d'installations qu'on pouvait faire sur des PC. Fait que ce jeu-là pouvait continuer à des années-lumière, même s'il y avait des nouvelles versions plus développées. Mm-hmm. Tu changeais d'ordinateur, tu pouvais plus, tu le perdais ton jeu. Puis
mais tu penses que ça va revenir? Ils vont mettre un code d'échange?
Ça serait intéressant.
Non, ça ne marchera pas. Je sais que voilà environ 6 mois, parce que du côté européen, l'Union européenne, il y avait un projet de loi là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui voulaient essayer de faire en sorte justement que tu puisses revendre un jeu numérique, comme on va le dire, là, sur PC, sur Steam, on va le dire, eux autres sont pratiqués, c'est tout rendu depuis plusieurs années en format numérique.
Mais c'est un peu plat parce qu'on possède rien, tu sais.
Ben, c'est ça, mais c'est un peu ça. Donc, l'Union européenne a vérifié ça, ils ont fait leur enquête, ils ont fait leur devoir, puis à un moment donné, ils ont finalement statué que non, ça serait pas possible. Parce que là-dedans, il y a trop d'histoires de droits d'auteur, puis les ayants droit veulent pas. Puis tu sais, on l'a parlé, je vous en ai parlé une couple de fois, là, je vous ai dit, tu sais, dans le temps qu'on avait nos Sega Genesis, puis nos Super Nintendo, des choses comme ça, puis qu'on avait des cartouches physiques, les studios puis les éditeurs, là, une fois qu'ils avaient imprimé ou ils avaient fait les cartouches, puis c'était parti pour se vendre dans les magasins, il n'y avait plus aucun contrôle là-dessus, là. Puis les jeux, à ce moment-là, étaient finis.
Mais t'es gravé pas. Je veux dire, tu sais, mettons, Nintendo 64, bonne chance de refaire la cassette. Il y avait quand même un contrôle.
Non, mais je veux dire, contrôle dans le sens que si moi, j'avais acheté une cartouche, puis moi, après ça, c'est moi qui l'ai acheté, le jeu, OK, un IP, là, une propriété intellectuelle, ça t'appartient pas. La cartouche, tu l'as acheté, tu vas y jouer, puis c'est correct, mais ça t'appartient pas. Le jeu t'appartient pas. La cartouche en plastique, oui, pas le jeu. Tu sais, c'est bizarre à expliquer, là. Mais 6 mois après ça, ma cartouche, je veux te la vendre à toi.
Ouais.
Je te dis, hey, Pascal, piastres. Je te vends 20 piastres.
Ouais. Quelqu'un a Pokémon Stadium 64, je l'achète.
Le studio, l'éditeur, là, il ne touche
pas
une scène de ça. Là.
Mais toi, tu l'as payé.
Là. Ben oui, mais là...
Oui, mais c'est ça. Fait que maintenant, avec l'Internet, avec le fait que tout est toujours connecté en permanence, regarde, on a eu des pannes, mettons, de connexion de serveur du côté Sony, il n'y a pas longtemps. Encore un petit problème de peut-être quelques heures, 12 heures, quelque chose comme ça. Ben, il y a bien des gens que même si tu avais ton disque physique, tu le mettais dans ta console, il ne fonctionnait pas. Parce que la connectivité n'était pas capable de reconnaître à distance si tu étais vraiment le propriétaire de ce disque-là. Fait que maintenant, ils ont ce contrôle-là. Fait que maintenant, ils peuvent dire, OK, mon jeu sur le serveur, on l'enlève pour peu importe la raison, ça coûte trop cher de garder le serveur en ligne. Après plusieurs années, il n'y a pas assez de monde pour justifier qu'on garde ça, ça nous coûte trop cher. Ils enlèvent ça. Toi, tu l'avais acheté. Moi, je connais beaucoup de gens là, qui ont acheté des jeux comme The Crew, qui ont peu accès à ça. Même si tu as le disque chez vous, il ne sert à plus rien à part un souverain.
T'as-tu l'impression que l'avenir va passer par des jeux comme Fortnite?
Qu'est-ce que tu veux dire, Fortnite?
Ben, c'est-à-dire une immense communauté où tu as accès à un monde virtuel où tu peux faire à peu près n'importe quoi dans ce fameux monde virtuel-là?
Ben, je te dirais que oui, dans un sens, ça va exister, mais encore là, ça va faire partie de plein d'essais.
Mais les jeux ne sont pas tous basés sur à peu près ce genre
monde-là. Non. C'est ça que je te dis. Ça va peut-être venir un genre de hub, un immense hub où tu vas pouvoir aller. C'est une boutique. Dans le fond, c'est comme les boutiques qu'on a déjà. Là. Mais ils vont peut-être permettre certaines choses à distance entre tes joueurs. Comme je me rappelle du côté de PlayStation, on avait eu PlayStation Home, que ça s'appelait. Puis c'était un genre d'univers virtuel où tu voyais, là, tu te voyais dedans, puis tu voyais, moi, je te voyais, là, ton avatar.
Ouais.
Je pouvais te parler dans le jeu avec des petits signes puis des choses comme ça. Fait que c'est sûr que dans l'avenir, essayons de nous voir dans 20 ans d'ici, c'est sûr que des choses de même, ça va être porté à être essayé puis à être mis sur pied de plus en plus.
Parce que j'avais essayé le casque de réalité virtuelle, là, je pense que je t'en avais parlé. Je vais jouer au ping-pong avec un gars, il était en Chine, on a passé 3 heures ensemble à écouter de la musique, jouer au ping-pong. Puis c'était weird, là. C'est un nouvel univers, là. Puis tu sais, t'enlèves ton casque, l'univers n'existe plus, tu le remets, puis t'as le Chinois qui est à l'autre bout qui joue avec toi au ping-pong, là.
Mm-hmm.
C'est complètement fou.
Tu voyages!
Ouais!
Mais ça...
Puis t'es dans un bar, c'est super bien aménagé, tu regardes à gauche, c'est tout fenestré, puis tu vois les montagnes, puis là, après ça... Tu lèves ton jour, puis là, c'est juste ta cuisine.
Est-ce que ça t'inquiète plus que tu trouves ça incroyable?
Ben non, moi, je trouve ça incroyable.
Moi, ça m'inquiète quand même un peu.
Ce qui est dommageable, c'est que ça change un peu ta réalité. Là. Tu vas peut-être vouloir améliorer cette belle vie-là que tu as au niveau virtuel versus ta propre vie à toi.
Tu sais, on voit là, au Japon là, le mouvement solo où les gens sont beaucoup plus dans leur pièce, dans leur chambre. Il y a quand même ça, moi, qui m'inquiète.
Ben écoute, c'est sûr que l'isolation, on le voit depuis déjà plusieurs années. Là, je veux dire, nos jeunes aujourd'hui ne jouent pas dehors comme nous, on jouait dehors. ils s'enferment puis ils passent des soirées puis des fins de semaine dans leur grotte. Là,
ils sont bien puis ils réclament rien de plus puis ils ont hâte d'arriver puis retourner là.
Ouais, j'ai eu ma leçon, moi, Noël. J'ai dit à mes gars, vous couchez à l'heure que vous voulez. « Ah ouais, papa, s'il est minuit, on peut rester debout. Oh, oui, pas de problème. » Le lendemain, je me suis réveillé. Là, Pascal va dire « T'es un mauvais père. » Mais j'ai appris mes erreurs. Le lendemain, je me suis réveillé, puis mes gars, les deux étaient dans la cave. Quand ils se sont levés, les deux, ils avaient les yeux bien rouges.
Ben oui.
Ils n'ont pas dormi ou presque.
Ils ont joué aux jeux vidéo, les deux, pendant des heures et des heures. Fait que je me dis, avec les fameux casques de réalité virtuelle, c'est ça que mon plus jeune m'a demandé pour sa fête, je le trouve un peu jeune pour embarquer sur ces jeux-là, très honnêtement, puis c'est pour ça que je voulais t'entendre là-dessus, tu sais. 8 ans, il veut un casque de réalité virtuelle, je m'embarque-tu là-dedans, là?
Ben, c'est parce que, en général, excusez, j'ai un petit minou, tu sais, ces appareils-là, c'est parce que le problème, c'est comme beaucoup d'autres technologies, c'est que c'est pas des technologies que tu vas payer 50$, là, tu sais. Fait que quand tu mets ça dans les mains des enfants qui ont peut-être pas la même notion de la valeur des choses, ben tu risques de payer 500$, puis que tu vas te le faire pitcher à côté de la litière des chats, comme tu parlais tantôt, qui va être tout scrap, puis au bout d'un an, il sera plus bon ou il va mal fonctionner, puis là, ben tu sais, tu vas peut-être descendre tous les seins du ciel parce que tu vas dire ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, oui, 8 ans, c'est peut-être un peu jeune. Puis en même temps, il existe des jeux, oui, mais est-ce que le dégât de jeu, ou plutôt, il manque-tu trop de jeux pour ces âges-là, en réalité virtuelle?
Oui, mais on parlait d'un truc où il y avait énormément de mouvements, là, c'est le lightsaber, ça se peut-tu?
Ah bah oui, Beat Saber.
Beat Saber. Ouais. T'es comme dans une pièce, puis t'as des formes qui arrivent, puis toi, tu dois avec...
Ah, oh, c'est super
avec,
le fun!
Avec ton sort.
T'as chaud, là.
Il y a de la grosse musique.
Mais mon ami a défoncé le mur.
Il dit, papa, tu me dis tout le temps que je bouge pas assez, puis là, ben avec Beat Saber, je pense qu'il m'avait dit
lightsaber. Oui, mais il va jouer combien de temps? Pour vrai, ça, puis il y a sur cette plateforme-là, il y a un jeu de burger aussi, là. Moi, j'ai jamais autant travaillé bénévolement qu'avec le casse-à-tête, là. Genre, t'es dans un casse-croûte, puis tu peux être contre quelqu'un qui a le casse à la tête, là. Puis tu fais les burgers selon la clientèle qui arrive, là. Tu peux jouer longtemps et t'es pas payé.
C'est pas un Overcook VR ou quelque chose comme ça, puis c'est ça, là.
Moi,
c'est
un adolescent.
Puis d'aller voir mon
joue
chum,
à ça sans cesse, puis il veut pas aller travailler au McDo, là. Je suis insurgé, là.
Mais c'est ça, mais pour toi, d'aller voir mon chum Mario sur le boulevard Ramel, il t'engagerait chez Ronald, là, faire des burgers.
Avoir du fun demain.
Tu serais payé, je pense, on rendu à 18$.
Pascal, c'est quoi ton passe-temps? Travailler chez McDo.
Fais des burgers.
Il n'y a pas de sous-métier.
Mais c'est ça. Ben, je le trouve un peu jeune pour 8 ans, mais là, sa fête, c'est le 6 mars. Là. Fait, faut que je me dépêche à prendre
Comme je t'ai dit, essaie de trouver un endroit où quelqu'un pour te le prêter puis qu'il l'essaye. Parce que en plus, tes enfants, si tu achètes ça pour tes enfants puis sont de cet âge-là, puis qu'en plus, ils se rendent compte qu'ils souffrent du mal des transports, ben là, t'es baisé parce qu'il n'y a pas vraiment de remède contre ça. En tant que tel, parce qu'il y a des gens que ça va faire absolument rien, d'autres que c'est moindre. Tu sais, des fois, c'est genre, OK, moi, c'est 2-3 heures la fois, je suis correct, mais il y en a que c'est genre 5 minutes, puis le cœur le lève, ça marche pas.
Ben, mon chum Pierre-Sébastien Gauthier a longtemps travaillé dans ce merveilleux monde-là, là, de la réalité virtuelle, puis il nous avait fait essayer le fameux casque où tu es dans des montagnes russes.
Oui.
Puis là, j'ai eu le mal des transports.
Ben oui,
quand j'ai essayé le fameux casque de réalité virtuelle où là, j'ai joué au ping-pong, là, c'était correct. Je ne l'avais pas. Ça bougeait peut-être un peu moins.
Oui. Bien, c'est ça que je te dis. On ne sait pas comment le cerveau réagit. Puis même si, mettons, tes enfants, tu dis, moi, je pars, je m'en vais, parce que le mal des transports, c'est un peu le même principe. Tu t'en vas en voiture, sont assis derrière, ils n'ont pas ce feeling-là. Mm-hmm. Tu dis, OK, c'est peut-être correct. Mais quand tu arrives dans le virtuel comme ça, c'est différent un peu. Ça se peut que ça déclenche quand même quelque chose, puis que là, ben ils souffrent de ça, puis tu vas avoir payé, c'est comme je te dis, 500-600$ dans le vide.
Bien, c'est pas grave. Ça a l'air que tu peux l'utiliser pour d'autres choses là, quand tu es un adulte.
Ben, il paraît que c'est l'industrie qui met plus d'argent pour développer le concept, là, mais ce que je trouve beau, par contre, c'est qu'il y en a qui l'ont utilisé pour faire vivre des rêves à certaines personnes en fin de vie ou à des aînés qui n'ont pas vécu grand-chose, puis tu peux faire voyager des gens. Tu peux te retrouver avec ce casque-là qui est très, très, très réel. Tu as l'impression de marcher, je sais pas, moi, à Rome, en Toscane, à Napoli. Il y a des petits endroits comme ça qui me viennent, là, mais tu peux être vraiment partout.
Mais
tu
es conscient que c'est du virtuel. Assassin's Creed, c'est-tu une franchise qui fonctionne encore à la planche?
Écoute, Assassin's Creed, je pense qu'il va toujours avoir les fans de la première heure puis qu'on va toujours aimer ça, sauf qu'Assassin's Creed fait partie de ces grandes franchises.
Il y a du temps qui écrit « Oui, Yann, tu peux être un poppy virtuel si tu veux.
» Oui, oui. Un petit poppy? Un petit Alice? Ouais, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, c'est une franchise qui, de un, qui existe beaucoup de titres.
Ouais.
Tant qu'à moi, beaucoup trop. À moi, à mon avis personnel, là, je pense qu'ils pressent le citron un peu trop du côté d'Ubisoft. On a fait de ça une vache à lait.
Ouais.
Puis là, je pense que la vache à lait est en train de donner du lait un peu suéri. Pas parce que la qualité d'Assassin's Creed, le prochain, qui est Shadows, ce ne sera pas bon. C'est pas ça. C'est plus parce qu'on dirait qu'on sent un genre d'écœurite au niveau des gens. Parce que c'est toujours la même chose dans, ouais, les Assassin's Creed. Puis même que la plateforme, comment c'est fait, les Assassin's Creed, ben que tu prennes tous les autres jeux, ben, on va dire une bonne majorité des autres jeux de Ubisoft, que ce soit les Far Cry, que ce soit les Watch Dogs, que ce soit, tu sais, toutes les autres franchises comme ça, le principe, le moule de base est tout le temps la même chose. Ensuite, tout ce qu'ils font, c'est qu'on change le maquillage par-dessus, mm-hmm, pour donner d'autres thématiques.
Parce que les premiers Assassin's Creed, moi, je tombais en amour avec
cette
marque-là. Ouais. Je veux dire, il y avait tellement de recherches, les, ouais, décors étaient incroyables, l'histoire, tu sais, il y avait un travail. Je pense que c'est avec vous autres, avec M2, ouais, Gaming, qu'on avait parlé de ça. C'est tout ce qu'il y a derrière, puis qu'ils ont mis dans ce jeu-là, dans les premiers, tu jouais à ça, puis tu disais, mais mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir un cours d'histoire.
Mm-hmm. Ben écoute... Là-dessus, c'est le fun parce qu'ils ont toujours fait affaire avec des historiens.
Ouais.
Fait qu'ils ont toujours suivi ça. Là, je sais qu'avec Shadows, il y a encore une histoire parce que Yasuke, qui est un des personnages, t'as deux personnages. Il y en a un qui c'est comme un... On va dire, c'est un noir. Mais tu sais, va-t'en dans le Japon un peu féodal, retrouve un Japonais qui était supposé être un des genres de commandants de Nobunaga et compagnie. Ben ça a l'air que ça marche pas dans l'histoire. C'est pas, okay, comme ça. Tout le monde, il y en a qui... c'est parce que, tu sais, Ubisoft faisait passer ça au début comme si c'était un samouraï. Là, je te dis, il y a du qu'un tollé. Non, dans l'histoire, c'est pas un samouraï. Parce que les samouraïs, c'était les servants de telle affaire. Même moi, je peux pas te rentrer dans toute l'histoire, mais il y en a qui sont pointilleux.
Ils ont-tu écrit 100% basé sur la véracité, ouais, de l'histoire?
Parce qu'au départ, c'était ça, Pascal.
Oui, mais c'était pas vendu comme tel. Fait qu'il y avait pas, mettons, de possibilité de les poursuivre si jamais Yannick Marceau en fait partie.
C'est parce qu'il reste tout le temps que dans ça, c'est une œuvre de fiction basée sur des faits historiques. Souvent, c'est vendu comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient, œuvre de fiction, tu sais. Ça va être dans tous les jeux, là, je veux dire, en général, t'as pas de jeu qui est à 80, même à 100% vraiment véridique selon l'histoire. Fait que peu importe. Finalement, ce jeu-là, il est supposé de sortir le 20 mars, mais cette semaine, apparemment, il y a des gens qui ont déjà mis la main sur des copies. Fait qu'il y a des copies qui ont fuité, qui ont coulé, on sait pas de où, c'est-tu venu de l'interne de Ubisoft? On le sait pas. Fait que là, Ubisoft a comme levé le flag. Ils ont dit oui, on est au courant, mais malheureusement pour eux autres, parce que c'est pas la version finale, ben tu le sais maintenant, quand on achète un jeu, qu'est-ce qui arrive quand tu mets le jeu dans ta console ou que tu le télécharges pour la première fois? T'as une mise à jour énorme qui vient avec ça, ouais, qui va patcher un paquet de bugs, qui va rajouter des textures, qui va fignoler des choses. Puis là, ben la copie qui est dans la nature présentement, ben c'est ça, là. Elle bénéficie pas de tout ça encore. Fait que Ubisoft, ils disent ouais, mais attendez, là, fiez-vous pas là-dessus pour dire que c'est ça définitif. Il y a des choses qui vont changer avec la mise à jour à venir.
On parle de Fable.
Ouais,
j'ai
Fable.
Pas joué à ce jeu-là. La sortie serait repoussée en 2026. C'est quoi ce jeu-là?
Ben, écoute, ceux qui sont des fans d'action RPG, là, des jeux de rôle, ouais, du côté d'Xbox, le premier était sorti sur Xbox en 2004, je me rappelle bien. Il y avait une suite qui était sortie, je pense, 2014 ou 15, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est quelques années après. Puis ça avait toujours été super bien reçu. Évidemment, c'est une franchise qui appartient vraiment du côté d'Xbox. Quand on parle des exclusivités, quand t'es un fan Xbox, tu tiens à ça, comme les fans PlayStation tiennent à les exclus. Fait que là, on avait le prochain qui serait qui serait un genre de Fable 4, mais qui n'est pas vraiment le 4, là, qui s'en viendrait, qui est beau. Visuellement, c'est époustouflant, c'est vraiment super beau. C'est un jeu genre médiéval,
ouais,
de rôle qui, regarde, ça va être vraiment...
C'est bien fait, c'est
ça. Ça va être super bien fait.
On parlait d'Assassin's Creed, là, les décors, les...
Ah, aussi.
La température est bien exposée. Oh, wow, ça, c'est beau, cette scène-là.
Les animaux, ah, c'est bien fait.
Fait que là, tu vois les environnements qui rentrent en ligne de compte, qui vont avoir un incident. On parle d'Assassin's Creed.
C'est une carte ouverte, mettons, ou il y a vraiment un moment que ton bonhomme fonce dans un faux mur?
J'ai pas vu, mais je pense que ça va être des cartes ouvertes, encore une fois. Mais le monde, selon ce que j'avais lu, c'est que ce serait peut-être plus petit que des Assassin's Creed comme Odyssey qu'on a eu, ou Origin, où là, on avait des espèces de cartes immenses. Puis ça, ben les gens, des fois, viennent que... Il y en a qui aiment ça, mais il y en a qui trouvent que tu te perds un peu plus. Puis quand on retrouve... Ben, le Shadows ressemblerait plus... Mettons comme le premier. un peu plus petit, d'une certaine façon, mais tu sais, peut-être avec des affaires un peu plus concis ou plus fun à faire que juste du bourrage artificiel pour refaire du temps dans le jeu. Là. Fait que... Mais Fable, c'est ça, c'était super attendu, c'était annoncé pour cette année, puis finalement, le boss Xbox Game Studios, il a dit « Ah non, on faut qu'on travaille encore, on va le repousser l'année prochaine. » Puis là, ben ça, t'as toujours deux mentalités, hein. T'as une gang qui part « Ben là, ça n'a pas d'allure, puis t'as l'autre gang qui dit « Ouais, puis... »
Vous avez l'air d'une belle gang. Hein?
Non, non, mais tu sais... non, mais c'est parce que même moi, j'ai jamais compris, je dis, quand il sort 10 000 jeux par année, qu'un jeu qui soit repoussé sur 10 000... C'est quoi? C'est juste ça que tu fais de ta vie?
Ben, moi, GTA, à chaque fois que tu me dis que c'est repoussé, ça me met en maudit.
Oui, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on attend.
Ouais. Ton gars, toi, as-tu trippé sur Lego? Parce que moi, mes gars, ils trippaient faire des Lego, mais à partir du moment où j'ai essayé de les intéresser aux Lego sur les jeux vidéo, ils ont décroché totalement. Je pense qu'il y en a un, c'était un genre de Batman puis Robin. Des toutus, là. Puis sérieusement, à un moment donné, là, ça prenait un QI d'extraterrestre ou un QI d'Einstein pour essayer de comprendre c'était quoi que tu avais à faire dans les tableaux. Mm-hmm. Bon Dieu qu'ils nous ont mis ça compliqué.
Ouais,
fait que mes gars ont complètement débarqué de cette franchise-là.
Ben oui, je pense qu'on aimait ça, mais il a décroché quand même assez vite. Comme bien des jeunes, je pense qu'ils aimaient mieux jouer avec vraiment les briques, là, Lego, les réels, que jouer dans les jeux. Les jeux, on dirait que ça a pogné plus avec du monde un peu plus âgé. Même moi, ma conjointe, elle trippe là-dessus, elle aime ça au bout. Là, les
jeux
Lego,
tu cherches
là.
Longtemps. Sur certains tableaux, tu cherches longtemps en sacrifice.
Ben, c'est parce qu'ils ont voulu mettre... Tu sais, plus ça allait, plus que la technologie permettait des choses. Puis ils ont voulu comme... Ben, on va essayer de relever ça tout le temps d'une coche.
Ouais.
Puis là, ben, des fois, tu intègres des choses que tu te rends compte que... Tu sais, quand tu es habitué d'avoir un gameplay d'une certaine façon, puis là, ils essaient d'intégrer des mécaniques, puis tu dis, ah, mais ça me semble que c'est pas... ça marche pas comme ça devrait. Ben,
mais
là,
sont où
ça.
Les jeux de... Mettons, moi, j'ai 30, fait que recule. Alors, fin 90, début 2000, les jeux de boîte de céréales. Là, je comprends qu'on n'en a plus dedans, là, mais de ce type-là. Puis il y en avait un jeu Lego là, qui était vraiment le fun, tu construisais. C'était simple et efficace. Moi, je referais certains de ces jeux-là, mais avec des décors beaucoup plus travaillés avec la technologie de maintenant, mais sans s'épivarder dans quelque chose de compliqué.
Oui, mais t'en as quelques-uns là, qui sont sortis comme ça, là, vraiment, là, qui vont se baser plus sur la construction de Lego. Tu sais, comme... mettons, Yann parlait de Batman, mais t'as tous tes... Oui, t'as tous les super-héros qui y ont passé. T'as, bon, Jack Sparrow du Pirates des Caraïbes.
Ouais.
Ils ont tout fait, là. Mm. Bon, ils en ont tout le temps, puis bon, ils n'ont pas fini d'en faire. Mais à travers, ils ont fait quelques jeux qui sont vraiment plus basés sur la construction, mais construire intelligemment. Là, je me rappelle plus du petit nom, mais il y en a un qui c'est... Il y avait Lego Worlds, mais il y en avait un autre plus récent. J'oublie le nom, mais peu importe. Ce qui était vraiment trippant, c'est que le jeu te mettait dans des environnements le fun, tu sais, un qui c'est plus médiéval avec des dragons, des choses comme ça. Puis pour traverser, mettons, un précipice pour te rendre à la caverne ou au château, il fallait que tu construises un pont. Là, il te donnait un nombre de pièces, toutes des pièces, avec le nombre de pièces de chacune. Puis là, il fallait que tu construises le pont pour qu'il tienne. Puis là, après ça, tu faisais passer un genre de robot, si tu veux, pour tester ta solidité du pont. C'était de la physique là, qui rentrait en ligne de compte. Puis là, ben si ça marchait pas, ça s'écroulait. Fait que pour accéder à ce bout-là, de ton niveau, ça te poussait à ta créativité et à savoir comment fonctionnent les physiques. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va supporter de telle façon. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça super.
Les Age of Empires...
Ouais.
De ce monde.
Ouais.
C'est fini, ça?
Non.
Parce que ça en faisait partie d'un jeu qui t'apprenait beaucoup de choses aussi là, sur l'histoire.
Ben, récemment, il y avait ressorti Age of Mythology, qui est dans la même gang là, de tous les Age of. Puis vois-tu, c'est ça, mais ça pogne tout le temps. Puis tous les joueurs qui aiment ça, le genre de stratégie comme ça, ils vont en avoir tout le temps. Puis même, ça me fait toujours rire, parce que moi, quand on met quelque chose de même sur notre chaîne YouTube, c'est toujours les vidéos qui... Ça fait partie des vidéos qui marchent le plus.
Pogne le plus.
Ben, c'est parce qu'on dirait que la majorité des gros titres 3A, là, les Call of Duty, puis ça va même, ça va pogner auprès d'une majorité de monde.
Uh-huh.
Mais la petite niche qui, elle, tripe stratégie, est pas assez représenté sur le web. Fait que quand t'en mets un...
Ouais, tu vois, j'ai Sylvain qui écrit, il dit, moi, j'ai essayé Lego Indiana Jones, j'ai vraiment trippé.
Bon.
C'est un jeu qui est magnifique.
Ouais. Ouais.
Simon qui dit, Lego City Undercover, c'est comme un grand Thief Toto.
Oui, ben c'est encore... Grand
Theft Auto. Grand
Theft Auto.
Grand Theft Auto.
Ben ouais. Excusez-moi, il l'avait pas écrit comme du monde. Rose of Nations, je connais pas.
Non.
Ah, je connais pas.
Je connais pas du tout. Marc Desgagnés d'M2 Gaming, parle-moi un peu d'M2 Gaming. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis où est-ce qu'on peut vous suivre?
Ben écoute, on travaille.
On travaille.
Puis après ça, on travaille. Puis après ça, on a un petit hobby qui est M2 Gaming. C'est notre passion de bébé lala, de joueur de jeux vidéo. Fait qu'on fait des tests de jeu. On donne notre avis. Tu sais, un avis, en passant, un avis, c'est pas la vérité. Là, ça, j'aime ça le répéter parce que le monde dit tout le temps « Ben non, ça vaut pas tant. » Ouais, mais c'est un avis. C'est pas une vérité absolue. Ça existe pas une vérité absolue. Fait qu'on donne nos avis là-dessus. On présente des jeux. Des fois, on va faire des tours dans des studios. On va faire des entrevues avec toutes sortes de gens. On a notre podcast où on en reçoit toutes sortes de monde, comme Denis que j'ai reçu hier avec.
Ben oui, ça a super bien été.
Ça a super bien été, il a eu pas mal de fun.
Il joue à quoi, lui, Denis?
Ah, il joue à tout. Il est comme moi. Denis, c'est un joueur, c'est d'ailleurs ce qu'on parlait hier dans le podcast, c'est que Raphaël est tellement d'un style qui est carrément pas nous autres. Puis moi et Denis, on s'en ressemble beaucoup. Je pense qu'on devrait être en couple.
Ah, écoute, je juge pas. Là.
Non, non, à cette heure, t'as plus le droit. Oui, c'est ça.
On est en 2020.
Inclusion.
Mais vous jouez à quoi ensemble, là, toi et Denis? Là?
Ah non, on joue pas ensemble parce qu'on est des joueurs solo. On n'est pas des joueurs en ligne.
Fait qu'on joue. Ils jouent au même jeu, mais chacun
de notre
bord.
Mais chacun notre bord.
Fait que Denis, ça va faire un coup fort, vraiment.
Denis, même à la maison, il veut pas jouer avec les gens à distance.
Non, non, c'est ça. C'est ça. Il est sauvage, lui, ici, puis moi, ici, à ma façon.
M2 Gaming, fait qu'on vous suit sur YouTube.
Yeah, YouTube M2 Gaming Canada. Mettez Canada, parce qu'on n'est pas très original. Puis ensuite, ben, allez sur notre Facebook si vous voulez nous poser des questions, voir les nouvelles, les sorties, des choses comme ça, et sur notre compte X.
Marc Desgagnés, c'est toujours un plaisir. Nous autres, on s'en va en musique. Red Hot Chili Peppers sur Boulevard avec Other Side.